Tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Bekech. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est très précisément 18h.
Radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 mai 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 20, fête de l'Ascension, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, salut et fraternité. Je dis salut et fraternité parce que je me suis aperçu que quand on dit bonjour, on ne tient pas compte du fait qu'on est le soir, ça ne vaut que pour les auditeurs du matin, et ça ne vaut pas non plus pour ceux des auditeurs de la nuit. Donc maintenant je dirais salut et fraternité.
Pourquoi?
Hein, pourquoi pas? C'est un peu républicain, c'est bien. C'est citoyen en tout cas.
Perruque blonde. Bon.
Vous voulez chanter un petit quelque
non,
chose?
Non, pas du tout, ça s'arrêtera là.
Je voudrais remercier Monsieur Gontier Traiteur. Pour commencer cette émission.
Et vous êtes?
Ah ben, Monsieur Gontier Traiteur, c'est le monsieur qui nous a traité dimanche. Ouais. Il vous a pas traité,
ah
Marquis.
Non, moi, j'ai pas pu approcher du buffet. Il fallait se battre.
Même en sortant votre carte de Marquis?
Non, je n'ai pas de carte, je l'avais oublié.
Vous n'avez pas de carte de Marquis?
Il n'y avait pas de carte d'alimentation, il y en a d'autres qu'on avait, en revanche.
Non, mais il était formidable, ce buffet.
Ah, parce que j'en ai vu, c'était magnifique.
Oh, ouais. Il en a entendu parler.
Non, mais
il était bon. Il était bon. En plus, le vin de Radio Courtoisie était spécialement bon.
Et efficace.
Bref. Efficace.
Oui. Oui, efficace.
Et il était copieux, le vin et le... Non, c'était vraiment...
Non, c'était bien.
Alors, je suis obligé de faire amende honorable parce que Quand j'ai entendu parler de Austerlitz, l'espace Austerlitz, j'ai dit ça va être Waterloo, bien sûr.
Mais ben non, c'est
beaucoup d'humour.
Oui, non, bien sûr,
et en fait, non, pas du tout. C'était très très bien. Et en plus, on m'avait mis dans la salle Berlin. On peut pas rêver mieux, franchement.
Absolument. Hein,
j'ai vu que Jean Ferré s'était mis dans la salle Madrid, ce qui est normal, ça lui rappelait
des souvenirs.
Souvenirs. Et d'ailleurs. En fait, il y avait Radio Courtoisie en haut et Radio Courtoisie en bas.
Hein? En quelque sorte.
C'était beaucoup plus chic côté Madrid que côté Berlin.
Hein? Oui, bah oui. Mais c'est de monarchie encore.
Bah, c'est ça, c'est pour ça. Voilà. Voilà. En tout cas, dans la salle Berlin, il y avait du beau linge aussi, mais dans un autre genre. C'était bien.
Il y avait quand même Monsieur de Beketsch, Madame. Sérieux.
Émilienne, il y avait Émilienne.
Oui, aussi, oui.
Il y avait le Marquis, il y avait, enfin, puis tous les auteurs, puis tant d'autres. Mais c'était très sympathique. On a vu passer, je n'ai pas l'impression d'avoir... Vous y étiez, vous, Monsieur Prévost ?
Tout à fait. J'ai trouvé que c'était formidable.
C'est bien. Beaucoup plus à l'aise que
les années précédentes. Très bonne ambiance.
Oui.
On n'a pas vu le Bessélier, parce que le dimanche, c'est le jour où il travaille.
Le seul jour où il travaille un peu. N'exagérons pas.
Il y a une chose qui m'a infiniment flatté, c'est le nombre de gens qui m'ont tapé dessus en me reconnaissant. Ça, j'étais très étonné.
J'ai
changé l'eau de toilette depuis l'année dernière. Je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont reconnu, qui m'ont fait des compliments, même qui m'ont dit, enfin sur une vingtaine, il y en a 18 qui m'ont dit quand on ouvre le livre au journal, on commence par vous, puis après on voit pour le reste. Je vous le dis comme ça au passage.
Bah oui, je sais. Moi, j'aurais pas dit.
J'ai remarqué quand je vous ai apporté des épreuves l'autre jour, c'est que ce que vous avez fait. Vous avez commencé par regarder mon papier avant les autres. Je dis ça comme
c'est
ça.
Pour éviter d'autres procès, peut-être.
Non. Il n'y a pas de risque de procès avec le marquis.
Sont des mensonges.
Qui est tellement méchant que
les
au large. Ils n'osent pas. Monsieur Menoisy, vous étiez là, vous, dimanche ?
Non, je n'étais pas là ce dimanche.
Ah bon, bah vous me laisserez les. Parce que c'est 25 euros l'entrée, vous me laisserez les 25 euros aujourd'hui, ça ne compte pas. Voilà. Et Victoria n'est pas venue. Tout le monde la réclame, elle ne vient jamais.
J'ai une petite chose trop fragile.
Ouais.
J'ai peur de la foule.
Bien. Qu'est-ce que vous pensez du mariage des homos, vous ? Vous en foutez,
moi, je disais qu'il y avait le Pax, que c'était bien comme ça. Bon,
un Pax.
Toujours plus.
Vous croyez pas, ce qui est étonnant, c'est que tous ceux qui ont toujours lutté pour foutre en l'air toutes les institutions veulent rentrer dans les institutions maintenant. C'est ça qui est amusant. Mais je pense que bientôt, ils vont demander le droit à l'avortement quand même.
Non, je ne sais plus qui m'a dit la prochaine fois, ils vont réclamer un saint patron.
Oui, pourquoi pas. Là, il y a Saint-Sébastien déjà qui sert parfois pour ce genre de choses.
Oui, parce que ça fait partie de leur fantasme. Ouais. En tout cas, moi, ça ne m'émeut pas du tout.
C'est fait,
je parce que je vois pas qu'ils aillent renouveler leur vieux devant la statue de Marianne. Personnellement, je m'en fous. Si c'est dans une église, ça a un sens. Mais à la mairie...
Le mariage civil, c'est
rien.
Une pantalonnade.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui réclament le mariage religieux aussi.
Ah oui, mais ça, c'est
pas question. Non, mais pas question.
Voilà.
Ça s'est fait au Canada, il n'y a pas longtemps.
Le Canada,
bien sûr.
En tout cas, dans le prochain Libre Journal, il y aura un papier extrêmement intéressant. C'est un témoignage qui nous a été envoyé par un ami belge. Parce que la Belgique a adopté le...
Et l'Espagne bientôt.
Et l'Espagne, oui. C'est quand même...
Peut-être que l'enfant, s'il avait su, l'aurait attendu un peu. Enfin, j'en sais rien.
Vous allez au mariage.
Oui,
vous êtes invité au mariage.
Vendredi soir.
Wedding.
Je pars vendredi soir.
Oh, bah, vous nous raconterez ça.
Oui.
C'est un... Non, ça n'a rien à voir.
Quoi ?
Avec ce qu'on vient de dire, le mariage...
Non, je vous dis, s'il avait su, il aurait attendu un peu.
Ah, bah, ça change pas, alors.
Puisque c'est un projet de loi du nouveau gouvernement espagnol de mettre ça à l'ordre du jour.
C'est le gouvernement...
actuel, socialiste. Actuel. C'est le premier projet de loi qui va être déposé, c'est urgent, quand même.
Bien, c'est agréable de savoir qu'au moins on a des dirigeants qui s'occupent des choses urgentes et importantes.
Qui tiennent à cœur, si j'ose dire.
Qui tiennent à cœur, oui. De quoi on va parler ce soir ? On va parler de plusieurs choses, comme d'habitude, mais j'ai perdu le papier, comme d'habitude, encore. Non, voilà, c'est là. On va parler avec l'abbé Cellier. D'abord, on va commencer par l'abbé Cellier, parce qu'il a une urgence professionnelle.
Voilà, donc je pars à Compiègne de dire la messe pour demain matin, fête de l'Ascension. Donc, comme nous disons, nous sommes aujourd'hui, ce soir, la vigile de l'Ascension, et demain,
fête d'obligation.
Voilà. Ensuite, on recevra Patrick de Villenoisy qui va nous parler de la liste Alliance Royale aux Européennes, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de comment on dit déjà, si j'étais mal élevé, je dirais de bordel, mais non. Comme je suis bonne éducation, je ne sais pas trop quoi dire
De barouf.
De barouf.
Ah, voilà.
Oui, là, on sent le vieux militaire.
Oui, oui.
De barouf. Oui, oui. Donc, on va ajouter une liste.
Tiens. Monastère du barouf.
Liste, mais un peu sérieuse.
Oui, c'est celle qui a le plus de chance.
Je veux dire qu'en ce moment, vous n'avez pas grand mal. On recevra Philippe Prévost. Oui, Philippe Prévost qui nous présentera, qui nous parlera de son livre. C'est un livre fort intéressant qui s'appelle « La France et l'origine de la tragédie palestinienne ». C'est en quelque sorte l'histoire des fameux accords. Enfin, on dit fameux parce que personne ne sait ce que c'est. Les accords Sykes-Picot.
Ça explique tout ?
Ça explique pas mal de choses, exactement. Et puis ensuite, nous recevrons le docteur François Plantet, qui est médecin, comme son nom l'indique, et qui nous parlera des troubles de l'attention et du comportement. Enfin, ça, c'est le titre officiel, mais en réalité, vous verrez que ça dépasse pas mal ça. Je voudrais apporter une précision. Dans une autre émission sur cette même radio, on a parlé hier d'un docteur François Plantet qui avait fait des déclarations sur les remboursements, enfin, sur l'obligation de la Sécu, je ne sais quoi. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Je le précise tout de suite. Il y a deux docteurs Plantet.
C'est pour ça qu'il y en a qui
sont plantés. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais enfin, il y en a deux qui ont une certaine notoriété.
Pour ça qu'il y en a qui sont plantés en les écoutant.
Voilà. Et le mien, si j'ose dire, mon docteur François Plantet, il se tamponne le coquillard avec une patte d'alligator femelle des histoires de sécurité sociale. Et voilà. C'est ce que... Il fait des feuilles de sécurité sociale pour les gens qui ont besoin d'être remboursés, mais donc il a, je pense pas qu'il ait d'opinion bien arrêtée sur la question de l'obligation de la sécurité sociale ou pas. Voilà, ça c'est le programme de la soirée, et donc je vous parlerai bien de l'actualité, mais je la trouve particulièrement sordide et répugnante, donc on va peut-être faire l'impasse pour l'instant, on en parlera peut-être tout à l'heure, même sûrement tout à l'heure avec le docteur Plantet. Je ne voudrais pas choquer l'abbé Sédi en lui révélant des turpitudes que, en tant que confesseur,
il ne connaît que
par oui dire. Donc, alors parlez-nous un peu de votre église Sainte-Thérèse de Compiègne.
Voilà, alors,
et de l'Enfant Jésus, bien sûr.
Voilà, de l'Enfant Jésus. Il faut rappeler pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes que donc nous avons acheté une église à Compiègne, à la mairie de Compiègne, à la municipalité de Compiègne qui nous l'a vendue il y a quelques mois, et que donc nous nous apprêtons à la rénover. Il y a un certain nombre de petits travaux de rénovation, refaire tout le chauffage, parce que c'était une église qui était attenante à l'hôpital et que le circuit de chauffage venait de l'hôpital et qu'il est inexistant, refaire l'entrée, enfin bon, un certain nombre de choses, et que les travaux qui devaient commencer en mars... J'en avais parlé que les travaux devaient commencer en mars, mais on s'aperçoit que le bâtiment travaux publics n'a pas de chômage, parce que c'est difficile de trouver des entreprises, soit qu'elles répondent pas aux appels d'offres, soit qu'elles répondent à côté de la plaque. Alors il faut faire refaire les devis, leur dire maintenant il faudrait préciser ceci, cela, etc. Donc on a pris 3 mois de retard dans nos travaux qui devraient commencer, qui doivent commencer là d'ici quelques jours, avant la fin du mois. Donc les marchés ont été signés avant la fin du mois. Donc pour rénover cette église qui sera donc sera donc remise au culte à peu près aux environs de Noël, de Noël 2004.
Ça n'a rien à voir avec l'église ni avec votre sacerdoce, mais c'est quand même extraordinaire de penser que en ce moment même en France où tout le monde se plaint de pas avoir d'argent, de pas avoir de travail, de pas avoir de revenus, quand on cherche une entreprise de travaux publics, enfin de bâtiments pour faire un travail comme la réfection, la restauration ou la reconstruction d'une église, on trouve personne.
C'est difficile, hein. C'est effectivement difficile. Alors moi, j'interprète ça de façon bénigne en disant qu'ils ont assez de travail et qu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est peut-être le fruit du je m'en foutisme aussi. Hein. Les deux sont possibles. Bon, je suis plutôt du côté positif, mais de fait, notre programme était raisonnable. On avait un calendrier raisonnable et on a mis 3 mois de plus pour trouver des entreprises qu'il a fallu recontacter. Revenir vers elle, leur dire écoutez, on vous a contacté, ah bah oui mais on n'a pas répondu, et puis enfin, donc ça a été plus long que prévu. Alors pour cette église, donc je rappelle Compiègne, c'est quand même une ville magnifique, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu. C'est une ville chargée d'histoire, c'est une ville d'un patrimoine extraordinaire, enfin je veux dire, il y a des choses magnifiques. C'est quand même la cité où la Sainte Jeanne d'Arc a été capturée avant d'être livrée aux Anglois. Et c'est là, bien sûr, aussi la cité des bienheureuses carmélites, donc guillotinées sur la terreur, en s'étant offert en sacrifice, en holocauste, pour sauver la France.
C'est vous qui aviez publié un livre de M. Bush.
Voilà. On a publié un livre de M. Bush et on parlera tout à l'heure, quand on présentera les derniers livres, des carmélites de Compiègne.
Ça tient, et le faux curé de service qui nous envoie un message. Arrêtez de parler de buffet, de victuailles. Aujourd'hui, vigile de l'Ascension, c'est jeûne et abstinence. Mais on n'a pas mangé. On a parlé d'un repas qu'on avait fait avant.
Le dimanche. Puis le
c'est
dimanche,
empêché jamais... de parler pendant les jours de jeûne d'un repas qu'on a fait avant.
Non, puis le dimanche, il n'y a jamais de jeûne.
Voilà, d'abord. Voilà. Et puis j'ajouterais une chose, c'est qu'au contraire, comme ça excite notre gourmandise et qu'on ne pourra pas l'assouvir puisqu'on est jour de jeûne et abstinence, c'est ajouté à notre
pénitence. Voilà. Donc voilà. Pour ce chantier, évidemment, nous sommes très mobilisés. Les paroissiens participent au chantier, etc. Tous ceux qui sont artisans nous aident. Mais évidemment, nous avons besoin de quelques copecs pour payer tous ces travaux et remettre cette église donc culte au centre. Dans le vieux Compiègne. Donc nous avons besoin de 200 000 euros. Donc nous lançons un appel à droite, à gauche, plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs.
Vaut mieux. Vous voulez faire rentrer un peu de sous, ça me paraît
prudent. Voilà, donc auprès des auditeurs de Radio Courtoisie pour nous aider à remettre au culte cette église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans la cité de Compiègne. Alors je donne l'adresse où l'on peut envoyer des dons au nom de l'église Sainte-Thérèse, tout simplement, chèque au nom de l'église Sainte-Thérèse, à église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne. Boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne. Et donc, c'est l'église Sainte-Thérèse et des dons au nom de l'église Sainte-Thérèse. Je donne un magnifique
dépliant
à Madame Victoria, qui pourra, j'en donne aussi à nos auditeurs, mais nos amis présents. Comme ça, ils pourront cotiser.
Magnifique distribution. Voilà, oui, mais alors, si vous dépensez l'argent à faire des dépliants en couleurs comme couleurs somptueuses.
Voilà, on ne dépense pas de l'argent en faisant des dépliants, car ça fait connaître et ça permet aux gens de nous aider. Donc, Église Sainte-Thérèse, on va redire, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne, Cedex, donc au nom de l'Église Sainte-Thérèse.
Bien, alors, messieurs, si vous voulez cotiser, monsieur Villeneuve, vous pouvez sortir vos morlingues.
On a commencé il y a un quart d'heure, on en est déjà à 20 000 euros. Hein.
Voilà. Alors ça, c'était la casquette du prêtre de paroisse. Hein.
Maintenant, prêtre bâtisseur.
Voilà. Maintenant, je reprends la casquette de directeur de Clovis. Donc, pour présenter le dernier numéro de la revue Fidélitaire, le numéro 159 de mai 2004. Avec donc un dossier sur l'Immaculée Conception, c'est donc nous célébrons aujourd'hui le 150e anniversaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, et c'est le thème du pèlerinage de Pentecôte. La Pentecôte est rarement loin de l'Ascension, enfin d'une façon générale, elle est souvent une petite dizaine de jours après l'Ascension, et donc c'est dans quelques jours ce pèlerinage, et c'est le moment de lire ce dossier sur l'Immaculée Conception pour se préparer au pèlerinage et faire le pèlerinage. Il y a également un certain nombre de reportages sur des ouvertures de chapelles un petit peu partout, à Rennes, à Nancy, à Moscou. Il y a aussi la présentation d'une autre chapelle à Moscou. Il y a aussi au pays des Araucans, c'est-à-dire en Patagonie.
L'abbé Bouchacourt qui a réussi à conquérir les espaces patagons.
Voilà, c'est ça.
Donc, il y a un aumônier, là, il faut le présenter à notre consul.
Voilà. Oui, absolument, on a un aumônier tout trouvé. Alors.
Moi je rappelle que j'ai...
Vous êtes
sujet patagon aussi.
Patagon.
Comme nous.
Qui est sujet patagon ici?
Moi.
L'abbé Cellier, notre ami le marquis et votre serviteur, et puis vous n'êtes même pas patagon. Et vous, monsieur de Villeneuve, pas non plus.
Pourtant, si, j'entretiens une très bonne relation avec les autorités patagones. Mais je ne suis pas sujet.
On en verra si on peut vous pistonner, moyennant naturellement.
Les 25 euros réclamés.
Je prévois aussi, mais enfin.
Alors, il y a donc également pour les jeunes, il y a des propositions de lecture, n'est-ce pas, pour l'été, puisqu'on arrive à l'été.
Ainsi et comme par hasard, ce sont les ouvrages des éditions Clovis.
Non, regardez, je lis le premier. Attendez, je vous dis le premier, c'est Édition Salvatore, Tequi, Cerf-Volant, Dragon d'Or.
Pardon.
Voilà.
Pardon d'avoir médit.
Clovis également, mais c'est parmi d'autres, n'est-ce pas? Et puis des camps d'été aussi pour les garçons et pour les filles. Hein. Et également, oui, un reportage amusant du docteur Dickes sur notre. Il est allé faire une tournée de conférences en Asie. C'est un district très dynamique de la fraternité. Et il est allé donc faire des conférences de bioéthique dans des universités. Et il a fait des conférences devant 1300 infirmières, étudiants en médecine extraordinaires dans ces universités. Bon, il n'y a pas cet esprit français ou l'anticléricalisme. Hein, c'est des pays catholiques. Bon, mais il y avait les autorités qui étaient là. C'était tout à fait intéressant. Il raconte, c'est la première partie de son reportage.
Mais ils sont francophones?
Ah non, il a fait tout ça en anglais. Donc à Manille, il est allé à Singapour, à Hong Kong, aux Philippines, etc. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis mais il parle un petit peu de l'ambiance là. Vous voulez ça? Comme ça, vous le donnerez à M. Goffman qu'il en fasse publicité.
Il en fera une recension. Surtout que lui, rien de ce qui est catholique ne lui est étranger.
Voilà, c'est un des spécialistes. Alors. J'ai apporté également donc les dernières productions Clovis. Alors, tout d'abord, un magnifique livre qui s'appelle Magnificat, et qui est donc un livre de chants liturgiques pour les fidèles.
Ah, quelle bonne idée.
Voilà, donc il y a donc le grégorien, il y a des polyphonies, et il y a des cantiques.
Il n'y a pas « Prends ma main, Seigneur, prends ma main
». Ah ben, on va regarder, je ne sais pas.
Ça m'étonnerait, parce que
on ne sait jamais.
C'est un touché branche, ça.
Voilà, non mais il y en a des très beaux. Même des cantiques plus modernes, il n'y a pas que des cantiques du 18e siècle ou du 19e siècle, il y a des cantiques du 20e siècle, je ne sais pas s'il y en a du 21e siècle, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup de sorties, mais donc, ce Beckett, c'est qu'à le regarder, papier bible, reliure.
Oui, c'est très très beau, il y a les musiques.
Voilà, il y a les musiques, il y a tout ce qui est nécessaire.
Tout, c'est bien.
Pour le chant liturgique.
C'est très très bien, il y a les motets à la Sainte Vierge, il y a les anges dans nos campagnes, l'aime celui-là. Voilà. Je l'aime bien parce que c'est celui qu'on chante à la sortie de la messe de minuit, et après on va se taper la cloche.
Bah oui, c'est juste...
Ah, je suis encore me faire en guirlandais par notre...
On sent les fumées.
Le savonarole de banlieue. Autant le temps de l'épiphanie, oui, c'est superbe ça.
Voilà, ça a été fait donc par M. l'abbé Bernard Lorbert, qui est vicaire à Saint-Nicolas et qui est chef de chorale à Saint-Nicolas. Et il avait lui-même avant édité une série de CD qui reprennent en chant grégorien tous les dimanches de l'année.
C'est une très belle édition, hein, papier ivoire, le caractère est joli comme tout.
C'est un énorme travail, hein, il a fait travail pour... Donc le Magnificat, ça s'appelle, livre de chants liturgiques pour les fidèles. Hein.
Ça vaut beaucoup de sous, un livre comme ça?
Ça vaut 24 euros. Ah, c'est donné, on le brade, on le jette. Ah, ça, c'est Clovis.
Ça, c'est bien. Bah, vous vous rachetez par moment, quand même.
Voilà.
Pas seulement l'éditeur de choses qui font de la peine.
Voilà.
Bon.
Alors, pour poursuivre, donc, nous avons sorti deux Chemins de Lumière, notre collection qui reprend donc la collection Belles Histoires, Belles Vies, mondialement connue, de ces histoires illustrées.
Ah, ça, c'est toute mon enfance.
Voilà, nous avons sorti un Saint-Benoît, enfin le Saint-Benoît, hein, c'est le Saint-Benoît par dessin de Robert Rigaud, un grand, grand, grand du dessin, n'est-ce pas?
Ouais.
Et nous avons sorti donc le Saint-Louis, évidemment, bien sûr, qui est illustré par Le Rallye, qui est également Robert Rigaud. Donc je ne sais pas exactement qui a fait quoi des dessins, mais enfin, c'est tout ça, c'est Saint-Benoît, Saint-Louis.
Saint-Benoît, il ressemble à James Bond aujourd'hui. Comment il s'appelle?
Sean Connery.
Sean Connery. Hein. Voilà. Alors que quand Rigaud a publié ça... il y avait absolument personne n'avait la moindre idée de qui pouvait bien être Sean Connery puisque ça a dû être édité dans les années 50.
Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et le Saint-Louis qui est quand même une gloire de la France, je vais donner à madame Victoria le Saint-Louis. Voilà.
Victoria, il n'est jamais trop tard pour s'instruire.
Voilà. Non, mais c'est un livre quand même, là, vraiment, on peut l'appliquer de 7 à 77 ans. Hein. Vous savez, quand nous faisions des petites retraites à l'école Saint-Michel, entre les instructions, ils avaient le droit de lire, donc il y avait tout un certain nombre de livres, et bien que de la 6e à la terminale, ce qui était pris, c'était les Belles Histoires, Belles Vies. Hein.
C'est tellement bien fait, en plus, on sent bien.
Voilà, donc, le Saint-Benoît et le Saint-Louis dans la collection Chemin de Lumière, donc c'est la réédition des Belles Histoires, Belles Vies. Et donc, puisque nous parlions de Compiègne, Donc Daniel Raffard de Brienne, poursuivant sa petite série de petites vies de saints, a fait une Constance de Compiègne. C'est donc la vie de la novice, celle qui a prononcé ses vœux au pied de la guillotine, n'est-ce pas, cause de l'interdiction par la Révolution française des vœux. Donc elle n'a pas pu prononcer ses vœux à un moment normal et elle les a prononcés au pied de la guillotine. Donc elle a accompagné, enfin elle est bien heureuse avec ses 15 compagnes. Et donc à travers son histoire, c'est évidemment l'histoire pour les plus jeunes, l'histoire des Carmélites de Compiègne illustrée par Char.
La couverture est très belle. Hein. J'allais vous dire qui a fait l'illustration.
Voilà, c'est Char. Je donne ça aussi.
C'est magnifique. Hein. Voilà. Ouais, la jaquette est vraiment très très belle.
Voilà.
Et donc, c'est bien tout ça. Vous participez à l'édification des générations montantes.
Voilà. Alors Daniel Raffard de Brienne dédicacera ce livre Constance de Compiègne ainsi que ses autres livres à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, le samedi 22 mai de 15h à 19h. Il sera avec Monsieur Philippe Prévost pour son ouvrage La tragédie palestinienne.
La
comme
France,
ça, voilà. Comme ça. Quand Monsieur Prévost annoncera sa dédicace, il annoncera aussi Monsieur Raffard de Brienne. Donc Raffard de Brienne et Philippe Prévost, donc à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, donc dans le 5e arrondissement à Paris, le samedi 22 mai, donc samedi qui arrive, de 15h à 19h pour cette Constance de Compiègne et puis les autres livres. Et enfin, Madame Barguillère, Mel Barguillet, qui nous a déjà donné trois livres de jeunesse, nous a fait La Ronde des Fabliaux. Sont donc des petites poésies pour les enfants, pour les jeunes, illustrées sur des petits fabliaux animaux, des petites vies d'animaux avec des morales, une petite morale. La Ronde des Fabliaux.
Et qui est-ce qui illustre ça?
Ça, c'est Xavier Christin qui nous a illustré plusieurs.
C'est bien joli aussi. D'ailleurs.
Voilà.
Un auditeur demande, il existe un recueil de chants traditionnalistes qui avait été à l'époque édité par Monseigneur Ducos Bourget. De nombreux paroissiens l'ont déjà. Est-ce que cela ne fait pas double emploi?
Non, parce que là, d'abord, il y a la musique. Je crois que le petit fascicule blanc qui avait été fait à l'époque par Monseigneur Ducos Bourget n'a pas les musiques. Et puis, il y a tout le grégorien. C'était un recueil de cantiques, le livre de Monseigneur Ducos Bourget. C'est seulement un recueil de cantiques.
Mais dans les cas, c'est très, très complet.
Voilà, c'est très complet. On peut suivre vraiment l'année liturgique. Et puis, l'abbé Lorbert a fait un premier travail, parce qu'il compte, dans des éditions successives, approfondir cette partie-là. La partie grégorienne est, je dirais, stable et définitive. La partie polyphonique, elle est relativement stable également. La partie cantique, il a fait un premier travail important, mais il compte le poursuivre dans deux directions. Donc il a essayé de retrouver les paroles originales pour qu'on ait une norme commune, mettre la musique, et il voudrait enrichir pour que chaque période de l'année liturgique ait un nombre de chants pour varier un petit peu. Que ce ne soit pas toujours les mêmes chants qui reviennent au cours de l'année liturgique.
Alors, La Ronde des Fabliaux d'Armel Barguillet commence par un envoi au lecteur, d'ailleurs, que je m'en vais vous lire, parce que je le trouve joli comme tout. « Mes chers petits lecteurs, ce ne sont là, à votre intention, que quelques vers de Mirliton, mais s'ils savent vous distraire, je saurais m'en satisfaire.
Ouais. » Hein, oui, ce sont des petites poésies. Alors, c'est rangé dans l'ordre de difficultés croissantes. Donc, on commence par des petites poésies plus simples, et puis après, il y a plus de mots. Les enfants de cet âge-là aiment bien les mots un peu compliqués, un peu drôles, et qui leur fait découvrir des horizons nouveaux. Voilà.
Les quatre saisons, un petit dieu rigolo et pas vraiment rigolo, eut un jour l'idée à sa table de convier ces dames des quatre saisons. Elles s'en vinrent fort agrémentées et toutes quatre fort bien disposées à l'écouter avec attention. C'est mignon comme tout. Hein. Les dessins sont ravissants. Voilà, ça vaut quoi, 3 francs 6 sous, 7,50 €.
7,50 €, et je pense que c'est le même prix pour...
Ça, c'est idéal pour les familles de 15 enfants.
Voilà.
Eh bien, je vous remercie, monsieur l'abbé Cellier, de nous avoir apporté...
Voilà, alors on peut peut-être donner l'adresse pour commander tout ça.
Oui, j'ai
oublié ça. Donc, on peut commander tout ça à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Et le numéro de téléphone, c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. 23. Et bien sûr, dans toutes les librairies, dont la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Et je rappelle que samedi 22, il y a dédicace de Daniel Raffard de Brienne pour le Constance de Compiègne qu'on a présenté, et de M. Philippe Prévost qui va présenter son livre dans quelques instants. Donc c'est samedi 22 mai de 15h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e.
Merci M. l'abbé, à bientôt. Voilà. Que Dieu vous garde.
Merci beaucoup.
Mais moi je vais parler d'un livre aussi que je viens de recevoir et qui me paraît excellemment fait, vous contenterez de ça pour aujourd'hui. Tiens, il y a un monsieur qui m'enguirlande parce que l'autre jour j'ai parlé d'un Happy Few.
Oh là là,
monsieur Harry me dit, monsieur le directeur d'émission, dans l'une de vos récentes émissions, vous avez employé l'expression Happy Few en avouant au passage le bonheur que vous éprouviez à la placer. C'est vrai, j'étais content des Happy Few. Ici, c'est bien sûr le plaisir de la transgression, parfaitement irresponsable sur Radio Courtoisie ou en tout autre endroit.
Oui.
Au poteau, Beketch.
Au bûcher. Poteau.
On doit sans doute expliquer dans les écoles de journalistes que quelques chanceux, voire rares chanceux, ou quelques privilégiés, c'est moins vendeur, moins sidérant, et qu'être sidérant est la moindre des choses pour un journaliste à tout prix. Point. Delph, moi j'aime bien ce genre de commentaire parce que, d'abord, c'est à la mesure de l'événement. Il faut bien reconnaître qu'envoyer une lettre comme ça, parce que j'ai employé le mot Happy Few au cours de mon broadcast, évidemment, ça mérite ça.
Il y a une cogitation.
D'autre part, parfaitement irresponsable. On a déjà dit que j'étais parfaitement irresponsable, mais pas parce que j'employais des mots anglais. Enfin.
Personne n'a jamais fait d'école de journalisme ici.
Et d'autre part, Happy Few, ça ne veut pas dire rare chanceux, ça veut dire le petit nombre des heureux.
Oui.
Je le signale à ce monsieur.
Ah, c'est les élus.
Enfin, des heureux. Happy few. Petit nombre des heureux.
Voilà. La France d'en haut.
Et troisièmement, je voudrais quand même revendiquer le fait que je n'ai fait aucune école de journalisme.
Voilà,
je n'ai fait aucune
personne.
École. Donc, je n'ai aucun diplôme.
Voilà.
J'ai eu le BEPC par erreur du correcteur. Oui.
C'est pour ça que je vous admire profondément. Ah, j'ai mon brevet de nage libre. Sur 100 mètres.
Je l'ai aussi. J'ai même mon brevet de premier nageur en aviron.
Alors,
mais des diplômes scolaires, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Donc ne me le jetez pas d'école de journalisme à la figure. Je n'en ai jamais fait. Voilà. Alors...
Vous avez fait votre marché, là, en matière de livres.
Oui, je n'ai pas donné... Tout à l'heure, j'ai parlé de M. Gontier, traiteur, mais je n'ai pas donné son adresse.
Ah, ben...
Parce que, blague à part, si vous avez des enfants à marier, comme moi, par exemple... Mais oui. Je signale que ce n'est pas Gontier qui est le traiteur du mariage.
Mais là, ça va.
Moi, je marie mes enfants. Enfin, mon fils, samedi, je le dis.
Oui, je sais, je ne peux pas être partout. Hein.
Oui, je sais. Vous préférez aller au mariage du roi d'Espagne. Vous serez mieux traité.
Non, je suis pas invité. Je ne suis pas invité au dîner.
C'est pas Gontier, traiteur, qui fait le buffet.
Je suis invité à l'apéro, c'est tout. C'est pour au dîner.
C'est ça l'apéro?
Le
vin d'honneur? À la suite du mariage du
pape. Pour un apéro, c'est
oui.
Il y a la messe.
Un apéro royal.
Royal, c'est vrai.
La messe conciliaire sera suivie d'un vin d'honneur au château.
Au château, dans la cour du château.
Alors, je donne l'adresse de M. Gontier Traiteur, parce qu'il le mérite, c'était vraiment bien. Puis en plus, j'aime bien son slogan, c'est un bon traiteur pour bien recevoir. C'est pas des trucs à la noix comme maintenant, vous l'avez rêvé, Gontier l'a fait, ou...
Ah non, là, c'est contraire.
Là, un bon traiteur pour bien recevoir, Gontier traiteur. Alors, c'est à Lamonzy-Saint-Martin, 24 680.
Oui, c'est pratique.
Qu'est-ce que c'est 24 ? Dordogne. La Dordogne. Ben, il n'a pas peur de monter de Dordogne, mais donc, la Monzy-Saint-Martin, très bien. Et le téléphone, je le donne parce que, je vous répète, ça vaut le coup. 05 53 24 04 00. 05 53 24 04 00. Il fait un pâté, mon ami. Ben, oh, pardon, c'est vrai qu'on est vigile de l'ascension.
J'en ai entendu parler, moi, du pâté.
Voilà.
Tout était bon.
C'était bien, hein?
Très bon.
Bon, il y avait aussi un truc qui était intéressant, il y avait beaucoup d'écrivains.
Ça, c'était en surplus, c'était la cerise sur le gâteau. Ça,
j'ai vu notre consul général, d'ailleurs, de loin.
Oui, moi je l'ai vu arriver, traverser le boulevard.
Bien, alors, Monsieur Patrick de Villeneuve, vous venez nous parler de la liste Alliance Royale aux Européennes. Alors, il faut quand même que je vous interroge là-dessus, parce qu'il y a quelques années, quand notre excellent camarade Yves-Marie Adeline avait eu l'idée de lancer un parti, enfin un mouvement qui s'appellerait l'Alliance Royale et qui ferait appel au suffrage universel, j'avais trouvé la chose assez paradoxale et je m'étais pas gêné pour le lui faire savoir.
Elle peut paraître paradoxale.
Oui, ça, c'est moi qu'on puisse dire. Mais comme il se fiche absolument de ce que je dis et ce que je pense, il a bien raison, et que c'est un entêté sous ses dehors bonhommes, il a continué son truc et finalement, il arrive, alors apparemment, à faire une chose que je croyais pas du tout possible, parce que c'est vraiment peut-être l'élection la plus difficile à mettre en place pour un jeune mouvement. Et là, il va participer aux européennes. Alors, premièrement, est-ce que vraiment il va y avoir des listes Alliance Royale pour les européennes du mois de juin?
Absolument.
C'est certain.
Ah, c'est certain, tout à fait. Dans momentanément 6 grandes méga-régions, puisque vous savez que la France a été redivisée en 8 grandes méga-régions, il y a l'Outre-mer et 7 régions donc métropolitaines. Et donc actuellement, nous avons 6 listes qui sont prêtes. On est en train de discuter la formation d'une 7e liste avec l'Outre-mer, et peut-être, c'est la seule région que nous n'avons pas encore, celle de l'Ouest. C'est presque paradoxal. Paradoxal d'ailleurs, puisque ça comporte la Vendée, pour un mouvement royaliste c'est un peu étonnant, mais nous n'avons peut-être pas dit notre dernier mot et nous allons peut-être remettre aussi en place la 8e liste et donc faire le grand chelem.
Comment ça s'est passé? Alors d'abord, avant d'aller plus loin, définissez pour les auditeurs le mouvement Alliance Royale, ses constitutions, ses ambitions.
Alors, donc l'Alliance Royale, vos auditeurs ont entendu effectivement plusieurs fois Yves-Marie Adeline, notre président fondateur, a été créé en 2001. C'est un mouvement qui se propose de réintroduire dans le discours politique de tous les jours l'idée de la royauté. Et de reposer donc la question à ce sujet-là institutionnel. Alors, qu'est-ce qui a présidé à la création de ce mouvement? Deux observations. La première date de l'époque du millénaire capétien, où un sondage Ipsos avait fait apparaître que 17% des Français se déclaraient royalistes. Ça étonnait un petit peu le monde royaliste. Et la deuxième chose, c'est, en comparaison de cela, si on essaye de peser le poids des royalistes en France en matière de politique, ils représentent 0%. Parce que si un gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, a traité un quelconque dossier, le problème par exemple des retraites, le déficit de la sécurité sociale, la sécurité tout court, eh bien, il va se préoccuper de savoir ce qu'en pensent les socialistes, les communistes, le Front National, les trotskistes, tout le monde, sauf les royalistes. C'est-à-dire que dans la vie politique française, les royalistes pèsent 0%.
Quand vous dites 17%, à mon avis, c'est une sous-évaluation, parce que je prends un échantillon au hasard, un panel au hasard, ce studio là. Dans ce studio, tout à l'heure, on était 8 quand la Besselgui était là, et il y a au moins 4 royalistes sur les 8 qui sont présents dans le studio, vous-même, Chéri Guest, le jeune homme qui vous accompagne et moi-même, ça fait 4, donc c'est déjà...
C'est déjà énorme. C'est déjà...
Alors, je me prononce pas pour la Besselgui, pour Victoria, je sais pas. Vous êtes royaliste, vous? Non, fasciste plutôt. Non, même pas.
Je suis rien du tout.
Rien du tout, s'en fiche.
Non, peut-être fichiste, non, je ne m'en fiche pas.
Et Monsieur Prévost, je sais pas, il est historien. Ouais.
Voilà. Peut-être que nous ne pouvons être surpris d'ailleurs par les résultats, mais Yves-Marie Adeline a été invité sur RMC, et sur RMC, il y a eu un sondage fait à la fin de l'émission, et 72% des auditeurs se déclaraient royalistes. Alors effectivement, on est à peu près dans la proportion de ce qui se passe dans cette salle ce soir. Alors, pourquoi finalement avons-nous créé l'Alliance Royale? D'abord parce que si les royalistes n'existent pas, c'est en partie parce qu'ils étaient eux aussi divisés. Divisés en chapelles derrière des fidélités dynastiques différentes. Et la première idée de l'Alliance Royale, ça a été de dire transcendons ces histoires de querelles des princes et travaillons ensemble.
Ça, si vous me permettez de faire une remarque fondée sur mon expérience, j'ai entendu ce discours à peu près 50 fois, hein, et chaque fois ça a fait une scission de plus. C'est-à-dire que c'est chaque fois les gens qui sortent des rangs pour pour coaguler les autres ne font que coaguler trois personnes qui constituent un élément de division supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Alliance Royale a plus de chances de réussir que les autres dans
ce qu'il va faire ? Oui, ce qu'il va faire, c'est que précisément, nous sommes un mouvement totalement politique. C'est-à-dire que nous voulons vraiment reparler de politique. Ce qui n'était pas le cas des royalistes jusqu'à maintenant. Parce que les royalistes, que faisaient-ils en matière de stratégie politique ? Les uns attendaient le coup d'État militaire, Monk, les autres attendaient l'arrivée d'une crise grave. On en a eu une avec les événements de 68. Il y a eu vacance du pouvoir, éphémèrement certes, mais les royalistes non préparés n'ont pas pu saisir cette occasion. Et les autres, qui sont un contingent non négligeable, attendent l'intervention de la Providence. Alors, je pense que tout ça, ressorti du rêve le plus définitif, ça ne se produira jamais de cette manière-là, et c'est pour ça que nous avons créé l'Alliance Royale, qui a pour objectif de mettre à la disposition des royalistes, que nous n'avons pas inventés, ils existaient avant la création de l'Alliance Royale, une stratégie politique. Nous sommes pour les royalistes une stratégie politique. Voilà donc, si vous voulez, la raison d'être essentielle de la création de l'Alliance Royale.
Vous voulez dire quelque chose, Marquis ?
Oui, parce que moi, je suis tout à fait intéressé par tout ça, et j'ai même passionné. Mais l'une des premières réunions où je suis allé, cher Patrick, et j'ai eu l'occasion d'en débattre avec toi après, on partait après le discours que tu viens de faire et qui tient la route. Et dans la seconde qui a suivi, il y a deux, trois personnes. Ah oui, mais attention, il y a le comte de Chambord. Mais attention, il y a l'Espagne. Mais attention, il y a le comte de Paris. Et au bout d'un quart d'heure, on était, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur de Becquet, dans les vieux clivages. Et c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a le discours. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on soit d'abord en train de se bagarrer pour réinstaurer l'idée de la monarchie.
Après, c'est ce que nous faisons.
Et après, on verra qui nous mettront. Et c'est à partir de là, dans la deuxième partie de ma phrase, que tout le monde me tombe dessus en me disant « Mais non, on a celui-ci, on a celui-là. » Alors, bon courage.
Non, non, mais tu as raison, mon cher Jean-Paul, tu as raison de dire ça. C'est tout à fait ce que nous voulons faire. C'est-à-dire ne pas nous préoccuper cette querelle des princes, transcender cette querelle des princes et parler politique. Parler aux Français de la France.
Quand vous parlez de politique, ça on va y revenir ensuite, mais pour l'instant, quand vous êtes en groupe, quand vous vous réunissez avec Yves-Marie, avec vous, puis enfin d'autres membres importants...
De l'Alliance Royale.
De l'Alliance Royale. La question des princes ne vient jamais. Il n'y a jamais un moment où... Jamais.
Non, parce que vraiment, actuellement, nous avons au sein de l'Alliance Royale des gens qui sont issus de toutes les fidélités dynastiques. Alors, il y a les deux principales que tout le monde connaît, bien sûr, ceux qui sont orléanistes et ceux qui sont légitimistes, mais il y en a d'autres qui sont plus marginales, enfin moins importantes en tous les cas. Vous avez les survivantistes qui sont toujours derrière Nundorf.
Les buffettistes. Non, mais moi, je peux vous en citer pas.
C'est se dire ce soir, on se réunit et nous allons essayer d'avoir une approche monarchique du problème de la sécurité sociale. Ça serait bien. Voilà. Or, nous allons essayer d'avoir une approche de l'école publique vue à travers l'idée comment on pourrait la faire fonctionner en monarchie. Or, je suis désolé, toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, et je souhaite que ça change, au bout de 5 minutes, il y a toujours celui qui dit c'est mon prince qui est le meilleur que l'autre. Et ça, tu ne peux pas dire le contraire, et c'est là qu'est le vrai problème. Et c'est, j'attends de voir la composition des listes au Parlement européen, parce que c'est ça qui va être intéressant. Il faudrait qu'il y a...
Parce que si c'est un Orléans qui est tête de liste, vous n'y allez pas.
Il faut oublier ça, mais
il
faudrait même qu'il y ait sur la liste des gens qui ne soient pas du tout, qui soient des monarchistes, mais qui ne savent pas où aller.
Il y avait déjà la charte de Fontevraud qui avait essayé.
Mais ce n'est pas un mouvement politique. Non, c'est un mouvement associatif qui a effectivement eu une initiative. Oh, vous avez aussi d'ailleurs l'initiative plus mondaine de l'unité capétienne qui a aussi fait ça. Et avant,
ça, c'est la foire du trône.
C'est la foire du trône. Mais vous aviez aussi eu avant le Rallye Club des Lys, qui avait été aussi une initiative un peu mondaine, qui voulait aussi rassembler tous les princes, parce que des princes de toute origine étaient venus.
Si Jean-Paul veut dire, faisons crédit à l'Alliance Royale de sa volonté de parler de politique. D'abord, moi, je pense que c'est pas nous qui allons décider qui est le roi, sinon ça n'a aucun sens, c'est la Providence. Bon, donc, laissons la Providence faire son boulot et contentons-nous de faire un peu de ménage pour qu'elle puisse se déplacer sans soulever trop de poussière. Alors, la politique, ça c'est une chose, mais moi ce que je constate à travers les conversations anciennes déjà que j'ai eues avec WMA, c'est notre ami, parce que j'aime bien parler anglais, comme on l'a remarqué déjà. Yves-Marie Adeline, Donc ce que je constate, c'est que il est, chaque fois qu'il prend une position sur un problème politique, il est sinon en opposition, du moins en différence très marquée avec les positions traditionnelles de la droite nationale. C'est systématique. C'est-à-dire que si on parle d'immigration, pour lui, c'est pas un problème. Si on parle de souverainisme, il dit, oh, souverainisme, c'est pas tellement la question c'est l'Europe. Si on parle de justice, bon, il est contre la peine de mort, il l'a dit et répété. Je me demande si, au fond, ne parlez pas mal de ce que je veux dire, mais on n'est pas en face d'une menace d'attrape-couillon une fois de plus. C'est-à-dire que on sait un coup à la Pasqua. Hein, on va nous dire votez pour moi, je me démerderai après pour faire votre bonheur. Moi, j'aimerais bien que je suis tout à fait disposé à m'intéresser à la liste de l'Alliance Royale, mais je voudrais quand même que ça soit pas systématiquement des positions qui sont celles que je combats depuis des années, qui soient représentées comme les positions du seul mouvement royaliste qui ne s'empêtre pas dans les questions de succession.
Ouais. Tout à fait. Je peux vous répondre, bien sûr. Yves-Marie Adeline et l'Alliance Royale en général, nous sommes au milieu, je parle du problème du souverainisme. Vous avez parlé du souverainisme. Effectivement, nous ne sommes pas favorables aux thèses souverainistes. D'abord parce que le vrai souverainisme, il faudrait d'abord qu'il y ait un souverain. Ça comporte le mot souverain, et les thèses souverainistes n'aboutissent pas au bout, puisqu'il n'y a pas de souverain.
Les thèses souverainistes se déroulent dans le cadre de la République, et dont le souverain est le peuple. Le peuple souverain. Donc, dans leur logique à eux, ils se défendent.
Voilà. Alors, c'est pas notre logique, parce que justement, nous pensons que la République française actuelle, c'est la cause du mal.
Jusque-là, je vous suis absolument. On est d'accord à 100%.
Si vous voulez, on peut en quelque sorte faire une image, parce que ça, c'est toujours très parlant, les images. Quand vous avez une fuite d'eau, ben, il y a deux solutions. Ou vous arrêtez la fuite, ou vous venez éponger. Alors vous pouvez éponger plus ou moins efficacement, hein, avec des éponges, avec des serpillères ou des pompes. Si vous voulez, les mouvements qui sont de droite, eh bien jusqu'à maintenant, ce sont les gens qui viennent éponger. Ils veulent essayer de réformer la République française. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, nos hommes politiques ne vous parlent pas de la France. Ils ne vous parlent que de la République française. Alors nous voulons reparler de la France.
Et on peut même entendre Chirac faire un discours qui est extraordinaire en disant... un discours qui criminalise toute contestation du bien fondé de la République française comme un coup d'État potentiel, alors que la République est née d'un coup d'État sanglant. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire, déjà. Mais je voulais vous dire, il y a une troisième solution. Effectivement, on peut boucher la fuite, on peut l'éponger. Une troisième solution, ça, c'est la solution qu'applique la gauche, ou la gauche républicaine, ou la République citoyenne, qui consiste à transformer la pièce où il y a une fuite en aquarium.
Voilà, c'est une solution aussi.
Et c'est exactement ce qu'ils font. Et ils disent, bon, ben, puisque, par exemple, puisque les gens peuvent pas arriver à rester mariés sans s'engueuler plus de 2 ans, et ben, on va faciliter le divorce. Hein. Puisque les gens n'ont pas d'argent pour élever leurs enfants, ben, on va légaliser l'avortement. Encore ça, c'est pas la gauche. Puisque les homosexuels font leur outing to board, et ben, on va légaliser le mariage homosexuel et ainsi de suite. D'ailleurs, ça, donc, il y a une fuite, transformons la pièce en aquarium. Quand on aura transformé toutes les pièces de l'immeuble en aquarium, on ira habiter dehors. C'est ça le problème. Alors, pour en revenir à des considérations sérieuses, si vous voulez parler de politique, surtout dans le cadre de l'Europe, il y a par exemple une question qui se pose, mais d'une façon plus que brûlante, enfin d'une façon mortellement immédiate, c'est la question de l'immigration. Chaque fois qu'on essaye de parler de ça avec Yves-Marie, il glisse mortel, il n'appuie pas, on va parler d'autre chose, des petits oiseaux, des papillons et tout. Mais le fait est qu'en France, on est dans une situation catastrophique à l'égard de l'immigration, et que ou l'Europe nous servira à régler ce problème, ou l'Europe nous servira à l'immigration à parachever la destruction de l'identité française totalement. Or ça, c'est capital. Alors qu'est-ce que répond l'Alliance française sur l'Alliance royale?
D'abord, effectivement, le seul fait que nous ayons un roi renforce tellement nos institutions que par rapport au problème de l'immigration, effectivement, il devient beaucoup moins important. D'abord parce que il est évident que la royauté française que nous voulons aura
une religion officielle, qui est la religion catholique. Et quand vous parlez de l'immigration, le gros problème, il est déjà sur ce sujet-là, effectivement. Donc à partir du moment où vous avez une religion officielle, le problème déjà se règle en partie parce que vous avez cette force, hein, incarnée par le souverain, qui fait que, effectivement, le problème de l'immigration est beaucoup moins important.
Donc ça ne sera pas une monarchie constitutionnelle du genre de monarchie espagnole.
Non, nous voulons vraiment un roi. Si vous voulez, nous reprenons les institutions. Nous avons élaboré une plateforme politique que les auditeurs peuvent d'ailleurs aller voir sur notre site internet, puisque nous avons un site internet alliance-royale.com. Et cette plateforme politique reprend en quelque sorte la constitution de la Ve République en supprimant l'élection du président de la République, qui sera remplacé par un roi. Et c'est là, évidemment, que nous apportons une grande novation aussi, en transformant l'élection législative pour arriver à une représentation sincère. Car le gros problème des députés, c'est qu'ils sont les créatures des partis politiques. Ils sont obligés au Parlement de voter en fonction de consignes de vote. Ils représentent des idéologies et ils ne représentent plus les structures de base de la société, n'est-ce pas, qui sont effectivement les corps intermédiaires. La représentation sincère, c'est la seule manière de faire obstacle, par exemple, au pouvoir de l'argent. Si sous prétexte de désintéressement et de justice sociale, on barre l'accès de la fortune privée, par exemple, on aboutit nécessairement au capitalisme d'État, c'est-à-dire à la généralisation de la condition prolétarienne, ce qui entraîne trois conséquences. La mainmise absolue de l'État, qui représente l'infini, sur l'individu isolé et sans défense. Deuxième conséquence, l'érosion de l'esprit d'initiative au sens des responsabilités, avec l'inertie et le gaspillage qui en résultent, chaque travailleur étant inséré dans un engrenage trop vaste, hein, pour que et trop anonyme pour qu'il puisse saisir le lien entre son intérêt personnel et l'intérêt du bien commun.
Je comprends bien ça, mais ça me paraît une solution nationale.
Oui.
Comment pensez-vous faire prévaloir des solutions nationales dans un cadre européen ? Parce qu'il est évident que la restauration, par exemple, des corporations ou l'instauration des syndicats verticaux, ou tout simplement l'application d'une politique sociale fondée sur la doctrine sociale.
Bien sûr, de l'Église.
Si on fait ça en France, très bien, moi je serais absolument enchanté, mais nos voisins associés, alliés, amis, et on peut même pas dire voisins d'ailleurs, parce que c'est ceux qui partagent l'appartement avec nous maintenant, les Allemands, les Espagnols, les Italiens,
bien sûr.
Ils vont peut-être pas être tout à fait d'accord, ils n'ont pas du tout les mêmes raisons que nous, les mêmes raisons historiques que nous d'appliquer ces solutions-là.
Ah bah absolument, mais ceci étant, il faut reprendre un petit peu à cet égard ce que disait Maurras, politique d'abord. Il est évident que pour que la France fasse entendre sa voix, il faut qu'elle reparle avec une voix unie, qu'elle ait à nouveau quelqu'un qui incarne cette souveraineté, c'est-à-dire un roi. Quelle est la continuité, quelle est la durée, parce que c'est ça que représente surtout le roi, la durée. Si nous ne réglons pas actuellement la plupart des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est bien parce que précisément les hommes politiques n'ont absolument pas intérêt à le faire. Ils sont obnubilés par un seul problème, c'est leur réélection. Mais il est évident qu'un roi qui, lui, ne peut pas être obnubilé par ce problème-là de sa réélection, puisqu'il n'est pas élu, effectivement peut être cet arbitre dont on a absolument besoin au-dessus de ces divisions partisanes. Parce que finalement, quand vous voyez l'organisation des élections tant présidentielle que législative, dans le cadre du système des partis, on divise les Français, on crée une sorte de mini-guerre civile, car l'élection c'est une sorte de mini-guerre civile, et après le président de la République qui est élu, la première chose qu'il fait, il avait parlé, celui que nous avons actuellement, je vous signale, la première fois qu'il s'est fait élire, de la fracture sociale. Eh bien, il faut recoller les morceaux. Il faut rassembler les Français qu'on a soi-même divisés, hein, pour essayer de se mettre au-dessus des partis, ce qui est impossible, puisqu'il est lui-même issu d'un parti.
En plus, c'est de l'imposture, ils s'en foutent.
C'est de l'imposture.
Ils sont derrière dans un fauteuil doré, et puis tout ça lui va très bien. Mais la question que je pose, moi, c'est celle de la faisabilité, comme on dit maintenant. Et surtout de la comment dirais-je, de l'efficacité de l'outil européen pour arriver à ça.
Je ne pense pas, nous ne pensons pas à l'Alliance Royale que l'outil européen soit en soi l'élément qui nous permettra d'arriver à cela. Et quand je dis politique d'abord, la phrase de Maurras que tout le monde connaît, eh bien, c'est bien sûr notre première introduction dans le domaine des élections, mais nous avons l'intention de nous présenter bien entendu à tous les types d'élections, et c'est le jour où nous aurons le pouvoir en France, parce que nous aurons un jour le pouvoir en France, l'Alliance Royale, c'est la seule issue possible face à la spirale de la décadence dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Il faudra cesser cette spirale de la décadence et revenir au principe qui est celui que nous défendons et qui est le seul qui permettra d'en sortir. Donc, évidemment, au sein des instances européennes, on ne peut représenter et avoir de poids que quand on représente le gouvernement en place. Actuellement, si nous avons des députés de l'Alliance Royale, eh bien, ils seront les porte-parole de l'Alliance Royale et ils nous serviront de marchepied pour, bien entendu, conquérir les autres pouvoirs qui sont absolument indispensables.
Parce qu'on voit bien, par l'expérience actuelle, on commence à avoir une bonne expérience du Parlement européen, de son utilité, de son fonctionnement et de l'utilité des parlementaires européens. On voit ce qui se passe. En réalité, il s'agit d'une espèce de chambre d'enregistrement. Moi, j'ai assisté à des réunions du Parlement européen. C'est hallucinant.
Bien sûr, c'est la Commission qui décide.
C'est hallucinant. C'est-à-dire que la Commission décide, elle prend des textes qui sont numérotés, et on ne lit pas les textes à la tribune, on annonce les numéros. C'est terrifiant à voir. Il y avait un speaker qui dit, un parleur qui dit 347, appuyez sur le bouton. Alors, oui, bouton de droite, non, bouton de gauche, abstention, bouton du milieu. 347, bon, alors les gens appuient, ça c'est clair, adopté. 348, adopté. 349, rejeté. On ne sait absolument pas de quoi il s'agit, et les gens n'ont même pas le temps, ça va tellement vite, de tourner les pages de leur petit cahier pour savoir pourquoi ils votent, pourquoi ils ont voté, pourquoi ils vont voter. Et les résultats, c'est que dans les semaines qui suivent, on apprend, par exemple là ce matin, que les OGM qu'on avait cru, dont on avait cru la France et l'Europe garantie pour un certain temps, eh bien viennent d'être régularisés et autorisés sous pression des lobbies financiers, des grands laboratoires pharmaceutiques et tueurs du monde entier. Et puis voilà, et on dit aux parlementaires européens, mais comment avez-vous pu voter ça? Ben moi j'ai pas voté pour.
Oui, c'est normal.
C'est une caricature de parlement.
C'est tout à fait normal. Et plus les parlementaires en question sont éloignés, n'est-ce pas, des réalités concrètes de la vie politique, plus l'irresponsabilité s'installe. C'est un phénomène qui est tout à fait normal et
oui,
pas du tout étonnant.
On est d'accord sur le diagnostic, mais maintenant sur les remèdes, comment pensez-vous? Parce que moi, je vous dis pourquoi je vous pose toutes ces questions. Parce qu'il se trouve qu'il y a en France un parti qui a depuis des années mis en place, avec tous les défauts qu'on sait, avec tout ce qu'on peut dire par ailleurs, mais le résultat est là, il a mis en place une structure qui fait qu'à chaque élection européenne ou autre, il obtient des élus. Et il obtient des élus qui représentent une force. Bon, c'est le Front National. Ces gens-là, en Europe, au Parlement européen, quelle que soit la force qu'ils représentent, ils n'ont aucun poids.
Aucun.
Ils ont un poids. Ils ont une apparence, enfin, un début, une espèce d'ombre de poids moral, parce que quand ils interviennent, quand même, pour rappeler à l'ordre, comme par exemple dans le cas du véritable scandale que constitue la menace d'interdiction du Vion Blocks, Gollnisch est intervenu en disant, enfin, au nom même des principes que vous prétendez défendre, vous pouvez pas faire une chose pareille, c'est pas possible. Bon, ça a fait un tout petit peu de bruit. Mais s'ils ne sont pas entendus, c'est pas du tout parce que c'est le Front National, ou c'est pas du tout parce que on les prétend fascistes, ou etc., ou pas à cause du cordon sanitaire. C'est exactement le même cas de tous les partis français et de tous les partis du monde. Ce qui est extraordinaire, enfin d'Europe, ce qui est extraordinaire, c'est que les partis nationaux représentés au Parlement européen sont obligés de se noyer dans des structures transnationales dont ils perdent naturellement le contrôle et qui de toute façon n'ont aucune importance puisque c'est la commission qui décide souverainement. Et que, encore une fois, on a une chambre d'enregistrement qui dit oui, béni, oui, oui, allez-y, faites ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout, on touche nos 100 000 balles par mois et on rentre chez nous et tout va bien pour le meilleur des mondes. Alors, moi je voudrais que vous m'expliquiez en quoi l'Alliance Royale va trancher avec cette habitude et en quoi elle peut obtenir, parce que c'est ça qui est important, parce que vos électeurs, quoi qu'en pense Yves-Marie, vous allez les piquer au Front National, vous n'allez pas les piquer à l'extrême gauche ou à l'UMP ou à l'UDF, c'est clair, ça c'est même pas un sujet de conversation, c'est une évidence.
Non, les gens pas si évident que ça. On va prendre certainement des électeurs au Front National pour la bonne et simple raison que quelle est la raison d'être d'un parti politique. La raison d'être d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Tous les partis politiques autres, là j'ai la liste par exemple des gens qui se présentent aux élections européennes qui viennent du ministère de l'Intérieur, les partis farfelus plus ou moins, mais vous avez donc d'autres, je vois ici là sous les yeux, le mouvement clérocratique de France, je sais pas ce que c'est, enfin vous avez donc une série de partis comme ça, mais la raison d'être d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Aucun des partis comme le Front National, le MNR ou le mouvement pour la France de Philippe de Villiers ou beaucoup d'autres, eh bien, ce ne sont pas des partis qui ont une vocation jamais à prendre le pouvoir. Ils s'inscrivent dans le paysage politique.
C'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent la même chose que vous. On a vocation à prendre le pouvoir.
Ils n'ont pas vocation à prendre le pouvoir parce que, par exemple, vous avez bien vu ce que ça a donné avec les dernières élections présidentielles. Vous avez eu une levée de bouclier qui s'est faite, n'est-ce pas, contre le Front National, et par conséquent, le Front National n'a pas pu.
Mettons-nous.
C'est très artificiel.
Mais ça se reproduira toujours.
Mettons-nous.
Il a été gonflé quand Goebbels devait se retourner dans sa tombe en voyant le scandale constitué.
Mais surtout pour nous, Alliance Royale, vous comprenez bien que ces partis-là ne veulent pas revenir sur la cause essentielle du mal, ils sont tous républicains.
Bon, on va en parler,
c'est notre analyse politique fondamentale.
Je vais donner la parole tout de suite au Marquis qui voudrait dire, Jean-Paul Delmetta.
C'est juste une question à poser. Moi, je remonte un tout petit peu le film et je reviens la morasse politique d'abord. Si j'ai bien écouté, et de toute façon, c'est pas la première fois que j'entends ton discours, il faut être catholique pour être dans votre affaire. Et puis vous voulez un pays catholique.
Non, on veut une religion officielle catholique, oui, ce qui ne veut pas dire que nous voulons une théocratie.
D'accord, j'entends bien. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas catholiques du tout et qui sont monarchistes?
Il y en a beaucoup. Chez nous.
Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je crains que les gens aient mal compris tout à l'heure. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y aurait une religion d'État, il fallait être catholique.
Non,
ne me dérange pas à titre personnel, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des monarchistes qui ne sont pas ni catholiques, ni protestants, ni pas du tout.
Absolument.
Sinon, on n'est pas dans le politique d'abord.
Absolument.
Comme le dit un auditeur, d'ici qu'on ait fini notre conversation, ce sera un calife qui régnera sur la France.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors là, je peux vous répondre tout à fait clairement sur ce sujet-là. Nous avons d'ailleurs à l'Alliance Royale des représentants d'à peu près toutes les confessions, puisque nous avons des gens qui sont de religion juive, des gens qui sont de religion musulmane, oui, nous en avons. Et par conséquent, si vous voulez, ça c'est une question qui est une question tout à fait bien réglée.
Il faut en parler précisément, parce que Absolument. Je suis désolé de te dire que c'est tellement bien présenté, entre guillemets, qu'on a l'impression que si on n'est pas catholique, rien n'est possible.
Absolument pas. Ah bon, non. Enfin, tout le monde peut, parce que le roi sera le roi, évidemment, de tous les Français, et quelle que soit leur religion. Bien sûr, il y aura...
Enfin, j'avais quand même entendu dire un moment que vous aimeriez bien qu'il aille se faire sacrer à Reims, alors je ne sais pas si c'est très réaliste.
Ah, si, c'est réaliste. Oh. Mais sous l'ancien
le roi ne
vous
peut être sacré qu'à Reims.
Il y a d'autres confessions.
Vous ne voulez pas qu'il soit sacré à la grande mosquée, non?
Non, mais c'est une chose sur laquelle vous êtes peut-être d'accord. Mais dans la réalité, si on veut peser un tant soit peu, il faut avoir des élus. Or,
absolument.
En présentant 3 ou 4 listes à droite, déjà, il est bien évident que les listes de Philippe de Villiers sont créées pour, évidemment, retirer 3 ou 4% au Front National. Bon, ça, c'est absolument évident. Bon. Et le Front National est ce qu'il est. Il est peut-être très critiquable, mais au moins, il a des chances d'avoir des élus. Les autres, ils vont
changer. Oui, mais le but final, ce n'est pas d'avoir des élus, c'est d'avoir le pouvoir. Or, le Front National, effectivement, actuellement, est un parti qui a plus d'ancienneté que nous et qui par conséquent effectivement a des élus, et s'il continue de se présenter aura encore des élus, mais il n'aura jamais le pouvoir. Or, actuellement, il faut rassembler les Français derrière une stratégie politique qui est une véritable stratégie politique de conquête du pouvoir. Or, nous sommes les seuls qui puissions le faire.
Je veux dire, comment
vous pouvez le faire
comprends
à partir des élections européennes.
Je comprends que vous disiez ça. Je comprends très bien que vous disiez on est les seuls, parce que c'est ce que disent naturellement tous les partis. Mais il y a, comme vous le rappelez il y a un instant, Jean-Paul Chergues de Le Métal, il y a le principe de réalité dont on ne peut pas faire l'économie. Or, le principe de réalité, c'est qu'il y a un éléphant et qui s'appelle le Front National, et une petite souris, une petite souris, qui cavale à côté de l'éléphant et qui va dire en traversant le pont, disons, t'as vu qu'est-ce qu'on fait comme bruit, hein? Alors, il faudrait quand même revenir un petit peu aux réalités, oui. Je crois. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans la création de l'Alliance Royale, c'est que c'est pour la première fois depuis longtemps, depuis que l'Alliance française n'est plus un parti politique, n'est plus un parti qui participe vraiment à la vie politique, il n'y a pas de candidat d'Action française. Voilà. Alors qu'un parti décide, et vous avez cité Maurras, et alléluia, décide, parce que vous citez Maurras, mais je vous signale que Yves-Marie Adeline, il dit que Maurras c'est un vieux con et qu'il faut s'en débarrasser.
C'est pas tout à fait, c'est pas ça.
Yves-Marie
Adeline n'est pas un
maurrassien,
il adopterait toute la doctrine de Maurras, mais il est tout à fait d'accord pour dire que dans la doctrine de Maurras il y a d'excellentes choses. Simplement, il y a aussi quelques petites différences par rapport à la doctrine de Maurras. Pour ça, tous ceux qui veulent les connaître peuvent lire ses livres. Il est très clair sur ce sujet.
En tout cas, le fait est que pour l'instant, moi j'ai jamais pensé effectivement que le Front National, dans sa conception actuelle et dans son fonctionnement, pouvait représenter une véritable force de conquête du pouvoir dans les médias. Mais ce qui est certain, c'est que ça constitue une formidable force de résistance aux dérives, à la décadence, à l'effondrement, parce que c'est l'ancre qui retient le vaisseau France, qui est emporté vers les récifs. Aussi, on arrache cette ancre en disant on va la remplacer par un pilote particulièrement doué qui va tirer un dinghy avec une pagaie en plastique pour faire sortir le navire des remous. Je crains fort qu'on se retrouve rapidement sur les cailloux. Voilà ce que je redoute de la multiplication de ces petites listes qui sont des listes qui vont ramasser des voix. C'est probable parce que
l'Alliance Royale. Voilà, c'est à mon avis encore plus probable.
Ben ça, vous savez, on ne connaît absolument pas la réaction des Français par rapport à l'arrivée sur le terrain politique d'un mouvement royaliste. Il est fort possible, eu égard à ce que nous connaissons des sondages qui ont eu lieu précédemment, que nous ayons de grandes surprises par rapport à cela. Et d'autre part, vous avez dit que le Front National faisait une résistance, et nous sommes bien d'accord. Effectivement, ça n'est qu'une force qui peut retarder la décadence. C'est ce qui est très important.
Alléluia,
mais à partir du moment où il existe sur le terrain politique ce qui n'existait pas précédemment, c'est-à-dire une nouvelle structure qui, elle, prône le changement institutionnel indispensable. Ça n'est pas un changement facultatif. C'est une absolue nécessité. On ne pourra pas réformer la République. La République est arrivée à des niveaux de blocage dans les domaines économiques partout qui sont des déblocages qui rendent la réforme dans ce cadre du régime républicain impossible. Il n'y a que l'institution monarchique qui va pouvoir proposer quelque chose de différent.
Et Patrick, comme il l'a dit il y a quelque temps, je ne sais pas s'il le fera, le comte de Paris a dit qu'il souhaitait avoir une liste et se présenter lui-même aux élections européennes. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? S'il y a un prince qui dit, moi, je me présente avec des idées monarchiques, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez avec lui, contre lui, qu'est-ce que vous faites?
Non, je pense qu'il n'y a pas de prince qui se présente.
Le comte de Paris a fait l'année dernière une réunion où il y a 2000 personnes au Sénat pour dire, je me lance dans les européennes. Bon, absolument. Ça, c'est peut-être pas fait. Mais si ça va jusqu'au bout, qu'est-ce que vous faites?
Écoutez, là, il faudrait voir ce que nous ferions à ce moment-là, parce qu'on aurait le temps. Moi, je pense, mon cher Jean-Paul, que ça n'est pas une hypothèse qui risque d'arriver, parce que ça n'est pas le rôle des princes de se lancer dans ce
type. Monseigneur le comte de Paris trouve les moyens d'avoir une liste et de se lancer tête de liste dans ce genre d'aventure, il viendra pas te demander la permission. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
Aux européennes, à la limite, il aurait pu effectivement faire ça, mais après, qu'est-ce qu'il fera?
Il va spécialement, juste un exemple. Si l'exemple se pose, qu'est-ce que vous faites? Car il n'y a pas que lui, il y en a d'autres que ça chatouille dans sa famille. Alors, qu'est-ce que tu fais si c'est ça?
D'abord, il faudrait effectivement que l'hypothèse se réalise concrètement. On verrait à ce moment-là ce que nous ferions. Mais je pense que de toute façon, il n'y aurait pas derrière ça une véritable stratégie politique de conquête du pouvoir en s'impliquant dans tous les types d'élections. Et la conquête du pouvoir, ça nécessitera de s'impliquer partout. Je ne vois pas
s'il y a un prince de la Maison de France
se présenter aux élections présidentielles.
Mais la première chose que vous devriez faire, c'est de vous impliquer dans les élections locales.
Évidemment. C'est ce que nous allons faire.
C'est aussi, à mon avis, le B à bas de tout.
Si vous voulez,
nous allons le faire aussi.
Je ne pense pas qu'on soit là pour régler les problèmes de l'Alliance royale. Moi, je voulais que Patrick de Villeneuve vienne pour nous expliquer quelles étaient les intentions, les buts, les objectifs, les modes de fonctionnement. Je crois qu'on a bien compris. Maintenant, puisqu'on a écouté essentiellement sur la région parisienne et sur la région ouest où vous n'avez pas encore de liste, sur la région parisienne, qui seront vos têtes de liste? Quelle est la philosophie, si j'ose dire, qui a inspiré le choix des candidats?
Sur la région parisienne, c'est très simple. C'est notre président lui-même qui est la tête de liste, Yves-Marie Adeline. Hein, et il a, puisque c'est quand même évidemment la région principale, pris cette tête de liste. Et je pense qu'effectivement, c'est une région dans laquelle on a des chances importantes de recueillir pas mal de voix.
Qui a-t-il comme deuxième de liste?
C'est Madame Jalin, Odile Jalin. Vous savez qu'on est obligé actuellement de panacher.
Donc oui,
un homme et une femme,
n'est-ce pas? Et donc, je trouve ravi.
Très bien,
Madame Jalin, une militante hors pair de l'Alliance royale.
Bien, écoutez, les paris sont lancés.
Absolument, et nous allons voir. Et je pense que de toute façon, nous nous inscrivons dans ce paysage politique en prenant date avec ces élections européennes. Mais il est évident que notre démarche politique est une démarche sur le long terme et que nous envisageons évidemment d'être présents ensuite à toutes les consultations électorales et que nous redirons toujours ce même message. N'attendez pas une amélioration de la situation, du changement des hommes dans le cadre de la République française actuelle. N'attendez pas non plus d'amélioration d'un changement de République. Ça ne serait pas une sixième République qui pourrait améliorer les choses. Il n'y a que le changement avec le retour à la royauté, avec cette démocratie sincère que nous voulons réinstaurer, n'est-ce pas, où on recréera ces corps intermédiaires qui ont disparu, qui permettra effectivement de sortir la France de l'actuelle spirale de la décadence.
Alors, je vous pose une autre question, qui est la question dernière, que tous les journalistes se sentent obligés de poser aujourd'hui. Donc je vous la pose. D'où vient l'argent? Parce que écoutez, ça coûte beaucoup d'argent de faire une campagne européenne. Et si vous ne me croyez pas, posez la question à Maigret. Il va vous donner des lumières là-dessus. Oui, vous allez être étonné.
Nous savons que les chiffres sont tout à fait considérables. Alors ça, c'est le domaine...
T'as bien un CCP à nous donner, là, non?
Voilà. Oui. C'est le domaine qui est le domaine réservé du président. Je ne connais pas donc les donateurs qui auront participé effectivement à la constitution de nos fonds secrets. Mais donc, nous avons effectivement des gens qui soutiennent cette idée, parce que les royalistes sont quand même très nombreux en France. Alors, d'autre part, nous appelons les auditeurs de Radio Courtoisie à venir consulter notre site, allianceroyale-union.com, à nous écrire s'ils le veulent. L'adresse du siège social est 17 rue des Acacias, Paris 17e. Donc, ils peuvent écrire à Alliance Royale, 17 rue des Acacias, Paris 17e. Et d'autre part, comme nous allons essayer de constituer ces deux dernières listes, il nous manque encore quelques candidatures pour les listes en question, puisque nous y mettons seulement maintenant. Et donc, si certains de vos auditeurs veulent soutenir notre initiative, nous pouvons leur envoyer les documents adéquats pour qu'ils puissent participer à nos listes.
Il faut envoyer un message sur Vexilla Régis.
C'est vrai que c'est la région.
Ah bah oui, en disant, voilà, vous cherchez des candidats, notamment dans le Grand Ouest. Je pense que notre ami Le Chouan sera absolument ravi de participer à votre entreprise. Encore que pour l'instant, il est plutôt dans les autres villiers, mais on peut le faire changer de...
Voilà, monsieur de Villiers, par exemple, moi je pense que c'est quelqu'un qui a une vocation à rejoindre le combat qui est le nôtre, parce que finalement, c'est un combat fédérateur et qui permettra seulement, et lui il ne va pas jusqu'au bout des idées qu'il défend, nous nous allons jusqu'au bout en disant il faut reparler de la question institutionnelle, et tant qu'on ne reparle pas de cela, on ne va pas au bout de la question.
Oui, mais là, ça pose une autre question. Bon, on ne va pas l'aborder, mais Philippe de Villiers a des obligations d'ordre local et des intérêts d'ordre local, qui le rendent assez imperméable à ce genre de considérations.
Je pense.
Mais vous savez, ça se comprend bien.
Quand vous voyez des listes comme les Verts ou comme vous voyez des listes comme Chasse, Pêche, Nature et Tradition, toute une série d'autres petites listes qui divisent effectivement pour reprendre l'accusation que vous portez. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie déjà que le système actuel de la République française sont des listes catégorielles qui défendent des intérêts catégoriel, qui ne s'intéresse pas donc au bien commun en général. Ça veut dire que la République française, déjà, se montre incapable d'avoir pu résoudre les problèmes de ses intérêts catégoriels. Et pour faire passer des messages, ils sont obligés de constituer des listes. C'est déjà un aveu d'échec du système actuel. Donc, si vous voulez, nous appelons les Français à rejoindre quelque chose qui est une véritable stratégie politique de conquête du pouvoir, car ces mouvements-là n'ont pas ce désir-là. Vous pensez bien que Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui sont des gens fort sympathiques et dont nous nous sentons fort proches d'ailleurs, eh bien, ne veulent pas conquérir le pouvoir. Ils veulent simplement avoir une possibilité de s'exprimer.
Oui, mais enfin, bon, si on fait des listes de chasseurs et de pêcheurs, je vois pas pourquoi on ferait pas des listes de tireurs à l'arc, des listes de tricoteuses.
On en verra peut-être si on continue comme ça.
Ou de vieilles dames ou jeunes dames qui font du crochet. Moi, enfin, tout ça est grotesque. Il s'agit simplement, encore une fois, de créer le maximum de fuite, puisqu'on parlait tout à l'heure de fuite, dans le canal normal d'expression de la droite nationale en France, de la droite scrogneugneuse, si vous voulez, la vieille droite française.
Le président
sur la table qui dit il m'emmerde et ben je vais voter pour Le Pen. Alors là immédiatement les autres se précipitent avec une signole pour faire un trou dans la conduite qui emportera 3 voix vers les chasseurs, 2 voix vers les pêcheurs, 4 voix vers les traditions, on sait pas de quoi d'ailleurs. Après ça sera chez Villiers, puis chez Pasqua, parce que Pasqua est plus UMP que Villiers, Villiers est plus jeune que Pasqua. Enfin tout ça est parfaitement tout ça c'est d'ailleurs à l'image de la démocratie, qui est le système politique le plus merdeux qu'on puisse imaginer, le plus répugnant, le plus dégoûtant, le plus imbécile. Et voilà le résultat. Et pendant ce temps-là, naturellement, le pays continue à s'enfoncer, mais ça fait apparemment... personne ne semble s'en aviser. Alors, je vous dis, moi, les idées... évidemment, votre solution finale, si j'ose dire, me paraît la meilleure. C'est-à-dire qu'il nous faut un roi. Et je dirais,
elle
pour parler grossièrement, qu'il nous faut un putain de roi qui est des cojones, comme on dit en Espagne, mais comme on n'a pas en Espagne. Et ça, je doute fort que ça sorte des urnes. Il nous faut des burnes et pas des urnes. Voilà ce que je voulais dire.
Il fallait trouver une stratégie politique. On pourrait éventuellement en proposer une autre, mais il n'y en a pas. Nous ne voyons que la stratégie que nous prenons actuellement, qui sera une stratégie certes à long terme, encore qu'on puisse être surpris, parce que les Français se rendront bien compte qu'il faut rediscuter de ce problème institutionnel et qu'il faut disqualifier un régime politique qui nous entraîne dans cette spirale de la décadence. Et il faudra donc, nous prenons date, parce que nous le redirons à chaque élection, nous redirons aux Français, mais vous voyez, les espoirs que vous avez fondés sur un tel, le changement des hommes, sont des espoirs vains. À chaque fois, vous avez été déçus, parce que finalement, il y a comme une analyse politique qu'il faut regarder, c'est ce que Yves-Marie Adeline appelle le zapping électoral. Avec les élections présidentielles, les dernières, vous avez vu la gauche, qui était au pouvoir, enregistrer une bérésina politique. 2 ans après, la droite reprend le pouvoir, et On observe avec les régions, avec les élections régionales, la droite enregistrait à son tour une bérésina politique, parce qu'on n'avait jamais vu la droite se retrouver dans la situation de ne garder qu'une seule région sur les 20 régions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gauche ou la droite soit au pouvoir, ils ont au moins un point commun, c'est que chacun mécontente son électorat propre. Les bérésinas politiques auxquelles nous assistons, ce ne sont pas une montée de l'opposition, c'est simplement une démobilisation des forces du mouvement qui est au pouvoir. Quand la gauche est au pouvoir, elle démobilise ses forces et du coup, effectivement, ça facilite l'arrivée de la droite. Idem dans le sens contraire, quand la droite est au pouvoir, elle mécontente tellement son électorat que du coup, elle démobilise, il y a une démobilisation et aux élections suivantes, eh bien, c'est la gauche qui l'emporte. Eh bien, il faudra que les Français en aient un jour assez de ce système qui affaiblit la France. Qui affaiblit la France parce que nous parlons avec notamment les systèmes de la cohabitation tels que nous les avons connus. Nous sommes ridicules face au monde entier.
Oui, mais je crois que le monde entier s'en fout, c'est ça, surtout.
Mais le monde entier s'en fout.
Depuis tant qu'on dit la France est ridicule, nous sommes ridicules parce qu'on a l'impression que le monde entier a les yeux fixés sur nous. Mais je crois que c'est pas vrai.
Je veux dire, les pays en matière économique, par exemple, courent une course d'obstacles. Il court cette course d'obstacles avec un handicap. Le handicap, c'est la démocratie. Et la France, de la manière dont ça se passe chez nous, a un handicap plus lourd que n'ont les autres pays. Si la France redevenait une royauté et n'avait plus ce handicap de la démocratie, eh bien, nous distancerions nos partenaires dans la course d'obstacles en question, parce que nous aurions une continuité dans l'action politique. Nous ne serions plus à la merci, comme on l'a vu par exemple avec les événements d'Espagne. Les événements d'Espagne, on a vu une force terroriste pouvoir modifier le résultat d'élection. Ça ne serait pas possible dans une royauté comme la nôtre. Donc, si vous voulez, nous mettrions la France sur un pied tellement avantageux que nous distancerions nos partenaires un peu dans tous les domaines.
Eh bien, acceptons-en l'augure. Et en tout cas, je vous souhaite... Vous êtes candidat vous-même ?
Je suis candidat.
Alors, je vous souhaite d'être élu parce qu'un auditeur me dit, cher Bekesh, ne découragez pas d'emblée notre ami royaliste. Un député européen ne touche pas 5 000 francs par mois, ça, je le savais, mais 180 000 pour le travail que vous avez si bien décrit. 60 000 francs de salaire, 60 000 francs d'indemnité, 60 000 francs de frais de secrétariat.
Ah, c'est quand même pas mal.
Si quelqu'un me donne moi sur une...
J'avais pas pris ça en considération.
Je prends. Voilà, merci, monsieur.
Bon, en tout cas, tu es courageux, Patrick, parce que tu y crois, c'est très bien.
Mais j'ai fait vraiment formidable.
Et tu as déjà un avantage, tu parles comme un vieux politicien, déjà.
On va poser question, on donnera la... Alors, il y a des questions d'auditeurs. Alors, je vous demande de répondre rapidement, monsieur de Villeneuve, parce que...
Ou des commentaires.
Ou commentaires, allez-y.
Je peux lire la série,
oui,
et puis vous répondez sur l'ensemble.
C'est trop désagréable.
Le pouvoir use, comment peut-on concevoir un roi qui exerce des pouvoirs effectifs comme le président de la République? Ce roi serait contesté et usé au bout de quelques années. Une auditrice, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire au sujet d'un roi. Est-ce que vous choisiriez parmi les prétendants ou vous trouverez un nouveau comme Napoléon?
La solution, elle est là. Attendez, je vous coupe un instant, mais moi je réponds là. Pourquoi ne pas couronner M. Bruno Gollnisch? Ce dernier me semblerait tout à fait indiqué pour être roi de France. Je suis tout à fait...
C'est
un auditeur
qui
a écrit ça.
C'est clair.
Donc voilà, là, on rassemble les deux projets.
On rassemblerait tout le monde, effectivement.
Moi, je serais très content que ce soit Bruno Gollnisch, parce que je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Il est très intelligent, il est très gentil. C'est mon ami, en plus.
Il est beau.
Donc,
vous auriez une place à la cour.
Vous seriez bien.
Vous savez, comme nous ne savons pas quand nous prendrons le pouvoir, effectivement, nous ne savons pas qui de tous ces gens-là sera encore vivant à ce moment-là. Par conséquent, c'est surtout aux gens du moment en question, c'est à eux qu'il appartiendra de faire un choix.
Bon. Pourquoi pas une monarchie autoritaire, non héréditaire, plutôt qu'une royauté et le népotisme avec une auditrice? L'Alliance royale s'est discréditée en envoyant sa tête de liste en Alsace participer à l'émission de télé-réalité « On a échangé nos mamans ».
Ça, c'est une émission qui a permis à la tête de liste, effectivement, là-bas, d'être très connue dans sa région. C'est vrai que c'est une émission, nous ne sommes pas très favorables aux émissions de télé-réalité, mais ça a été quand même, ça a eu des impacts très positifs, beaucoup plus de résultats positifs qu'on ne le croit.
Vous parlez à nouveau des royalistes, mais vous oubliez de dire que les reines ou rois à l'heure actuelle, tels le roi d'Espagne, sont tous francs-maçons.
Ah non,
ils croient se refroidir sur la royauté ainsi que leur mariage avec des roturiers.
Ça, je suis totalement d'accord, on en reparlera.
Oui, ça, c'est un autre sujet.
Juan Carlos, c'est pas franc-maçon.
Bah, il faut renouveler le sang un peu, sinon vous avez des grandes oreilles.
Il faut le renouveler avec du sang frais.
Marquez chez nous, en France, vous savez, il n'y avait pas de mariage morganatique pour les rois, n'est-ce pas ? Ils pouvaient épouser une bergère. Ça s'est pas fait souvent.
Je trouve ça très joli.
J'étais très intéressée, nous dit cette auditrice, en 2001, par le lancement de l'Alliance royale. Et depuis, je suis loin, hélas, car je trouve que vous ne donnez pas assez de place aux femmes.
D'accord. Ah ben si, nous avons autant de femmes sur nos listes que d'hommes. Et je pense effectivement que les femmes doivent s'impliquer en politique, doivent rejoindre notre mouvement. Elles ont souvent une vision des choses qui apporte énormément de choses. Et ça me paraît tout à fait important que les femmes s'impliquent en politique, effectivement.
Il vaudrait mieux faire l'union de tous les mouvements à tendance royaliste avant d'établir un programme. L'éparpillement des groupuscules est vraiment désolant.
Ben ça s'est déjà fait en quelque sorte, dans la mesure où les mouvements dont parle votre auditeur, ce sont des mouvements associatifs qui font des choses extraordinaires. D'ailleurs, ils font des manifestations culturelles, commémoratives et autres, mais ils n'ont absolument pas de vocation politique. Donc tous ces mouvements-là ont une vocation à nous rejoindre, et c'est nous qui sommes effectivement avec l'Alliance Royale, les fédérateurs de ces mouvements-là, qui continueront, et nous le souhaitons, de jouer ces rôles culturels.
Paul-Marie Couteau a dit que les députés du Front n'étaient pas très assidus au Parlement européen. Le Parisien a publié un tableau sur l'assiduité des élus français. Paul-Marie Couteau est moins assidu que trois députés du Front National.
Elle est blanche. Mais en plus, je veux dire, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai raconté brièvement comment ça se passait. Franchement, l'assiduité aux réunions du Parlement européen, je voulais que je vous dise pourquoi les gens sont assidus ou pas assidus. Parce que si vous êtes assidu, vous gagnez beaucoup plus d'argent que si vous ne l'êtes pas. Et si vous venez de très loin, par exemple, un Espagnol qui vient du fin fond du sud de l'Espagne et qui est assidu, il touche énormément plus que le Bruxellois qui vient une fois sur deux. Alors, vous avez des députés, des parlementaires européens qui ont l'intelligence de comprendre ce système et qui font ça pour gagner du fric. Alors, ils sont d'une assiduité formidable. Pratiquement, il faut les sortir à coups de pompe dans le verre à la fin des sessions. Et puis, vous en avez qui croient qu'ils sont plus importants à Paris ou en France en général, dans leur fédération, à s'occuper des problèmes français. Et que, de toute façon, leur élection, là-bas, ça n'est que... C'est du pipeau. Alors, donc, ils font leur travail sur le territoire national. Et puis, de temps en temps, ils vont faire un peu de présence pour justifier simplement l'existence du groupe. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas plus important d'être absent à Bruxelles que c'est important d'être absent à Paris, puisque, de toute façon, maintenant, il suffit d'un type pour voter par groupe. Il appuie sur tous les boutons et ça roule. Et je vous rappelle que c'est interdit, c'est illégal. Mais le jour où le Front National avait ses élus nationaux et en 86-87 et a tenté de faire valoir cette illégalité par les faits en s'opposant à l'utilisation du bouton par la même personne pour plusieurs votes, eh bien ce sont les gens du Front National qu'on a taxés de violence et qu'on a traités de factieux. Donc mettez-vous une fois pour toutes dans la tête que la comédie parlementaire, c'est même plus la comédie parlementaire, c'est la ferme parlementaire, c'est-à-dire que les parlementaires ont autant à voir avec la réalité du pouvoir politique en France que les espèces de tapettes qui sont dans l'émission La Ferme sur TF1 ont à voir avec la réalité de la vie agricole en France. Voilà, c'est exactement la même chose. Ils sont aussi, je dirais, un député parisien ou un député européen est aussi important sur le plan parlementaire que monsieur, comment il s'appelle, Vincent Doum.
Ce qui, pour l'Alliance royale, n'a rien d'étonnant, parce que effectivement, comme ces députés sont les créatures des partis, ne représentent pas les intérêts que nous voudrions que représentent les députés. C'est-à-dire que vous avez un Parlement dans lequel sont sous-représentées certaines catégories de Français, ou pas représentées du tout, et sur-représentées d'autres catégories. Et ça, évidemment, vous comprenez bien que dans ces conditions-là, le Parlement ne peut pas fonctionner comme nous voudrions qu'il fonctionne.
Voilà, Monsieur Pasqua a fêté l'arrivée des 10 nouveaux pays européens dans un bar gay, nous dit un auditeur. Oh. Oui, idée épatante, non, si, c'est vrai. C'était très rigolo, d'autant qu'il est arrivé avec Madame Chirac. Bon, on a compris assez rapidement que c'était le sosie de la personne. Et alors ça, on avait ri jusqu'à présent, et là on s'est trouvé d'un seul coup accablé, parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, il y en a deux en France. C'était terrifiant. Donc, oui, c'était dans une soirée qui est racontée d'ailleurs dans le Libre Journal, je sais.
Oui, j'ai lu ça.
Oui, mais pas par le marquis.
Non, non, moi j'ai les bars gays, c'est pour mon truc. On fréquente quelques-uns, mais je veux pas dans les bars.
Oui. Bien, c'est tout. D'autres messages?
Tout à fait en dehors. Pouvez-vous redonner le numéro de téléphone du traité
mais avec
que
plaisir.
Vous avez donné tout à l'heure?
Ah, je suis très content. Alors, c'est M. Gontier, traiteur, 0553. 24 04 00. En plus, il est sympathique, c'est un grand gaillard barbu et tout, il a de l'allure. Il avait un chapeau en tuyau de poil blanc. Bah, vous n'y étiez pas, vous pouvez pas savoir. En tuyau de poil de clinique, il était très
très traiteur, Gontier, c'est monsieur Gontier, traiteur.
Gontier, traiteur. 05 53 24 04 00. Voilà.
Et puis, pouvez-vous nous parler de vos ennuis? Non, c'est trop.
Non, parce que j'ai pas de nouveau pour l'instant. Et quant à la publication de l'interview volée qui fait grand bruit dans le Landerneau païen, je vois pas de nécessité d'en parler parce que c'est ce qui est fait est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je ne reviendrai pas dessus. Et chacun se fera son jugement.
Et puis, tiens, on voulait vous dire aussi que l'autre plantait, c'était Patrick.
Bon, ben oui, il est passé, François. Il est venu tout à l'heure,
oui,
il est sorti.
Il revient.
Eh bien,
il est parti adhérer à l'Alliance Royale.
Dans quelques minutes, la suite de notre programme passionnant.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous musical à 21h. Tout à l'heure, je vous présenterai Série Jazz comme tous les mercredis. 22h, rendez-vous avec Claudio pour les musiques de films. Et à 23h, la suite de notre série consacrée aux grands pianistes. Ce soir, Hans Richter Hanser à l'honneur. Il jouera des œuvres de Beethoven. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 mai 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, eh bien, nous reprenons cette émission. Je commence par quelques réponses à des messages précis. Je réponds à une auditrice qui regrette l'absence de Patrick Goffman, que Patrick sera là la semaine prochaine, c'est ça ?
Exactement.
Oui.
Je n'y serai pas, je serai en vacances Toulouse.
Un couple brisé. Un couple à peine naissant qui se trouve brisé par une séparation géographique. Donc Patrick sera là, je l'espère, en tout cas la semaine prochaine. Mais ses articles sont toujours dans le Libre Journal, et plus que jamais. Et je m'en félicite. Monsieur Guy Le Hideux, qui est notre spécialiste de la bande dessinée, nous demande de préciser que les couvertures des ouvrages dont parlait monsieur l'abbé Cellier tout à l'heure, c'est-à-dire le Saint-Louis et le Saint-Benoît, les ouvrages ouvrages qui existent depuis, je sais pas, au moins 50 ans, qui paraissent dans la collection Les Chemins de Lumière, ressuscités par Clovis. Donc ces dessins, les couvertures sont illustrées par Charlie Kiefer, et en ce qui concerne la question qui était posée à propos des rôles relatifs de Leralic et de Rigaud dans le Saint-Louis, Guy Le Hideux, à qui rien n'échappe, nous fait remarquer que c'est Rigaud qui a fait le début de la bande dessinée et Leralic qui a fait la suite. Et d'ailleurs, ça se reconnaît effectivement, le style évolue un petit peu. À un moment précis, je peux même vous dire que c'est très précisément entre la page 11 et la page 12. Vous voyez, moi aussi, je suis un vrai spécialiste. Voilà, d'autres messages.
Il y a quelques annonces, si vous voulez.
L'engueulade habituelle, mais ça, on fera peut-être l'économie. Voilà, c'est tout. Oui, des annonces, vous voulez les faire maintenant ?
Comme ça,
faites-les, ça sera fait.
On ne pédalera pas tout à l'heure. Alors, Philippe Prévost, donc. Vendredi 21 mai, de 14h à 19h, signera son livre à la librairie Duquesne. Et puis, samedi prochain, 22 mai, de 15h à 18h30, Daniel Raffard de Brienne dédicacera Constance de Compiègne et Philippe Prévost dédicacera la France et l'origine de la tragédie palestinienne 1914-1922 à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel. Le jeudi 27 mai, à 20h30, 4 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e, Gabriele Adinolfi signera Terra Positione, la droite radicale italienne. J'ai tout dit ? Oui ? Bon.
Ça a l'air de vous amuser.
Ah, mais c'est effrayant parce que.
Parce qu'il y a des noms étrangers, ma pauvre amie. Monsieur Romulus Ruzan, écrivain.
C'est dans tous les sens. Ça va dans
nous exposera l'action de cet organisme qui est le Centre international d'études sur le communisme, ainsi que l'activité des membres du mémorial de Siget, ancien bagne actuellement aménagé en centre de rencontre international, consacré à l'étude de la triste période communiste en Roumanie. Alors ça se passe le 22 mai à 17h à la maison roumaine Casa Romana, salle de conférence et bibliothèque, 38 rue Ribera, 75-016 Paris. Ils sont vraiment intéressants, hein, les. Oui, oui, c'est tout à côté.
Faites donc celle-là aussi.
Mais les Roumains, c'est des gens formidables. Mon ami Sergio Magnoliou disait toujours, Roumain, c'est pas une nationalité, c'est un métier.
C'est joli,
hein. Et le samedi 5 juin à 17h, c'est monsieur Bogdan Kalinescu, quel joli nom, diplômé de sciences politiques, qui fera une conférence sur le recul de l'État à l'Est. Et ça, c'est vraiment un sujet intéressant. 5 juin 17h, toujours Paris à la maison roumaine, 38 rue Ribera, 75 116 Paris. Voilà. Et puis, et vous voulez que je lise ça aussi?
Non. Ah oui, ça, vous lisez ça parce que c'est aussi le grand fouillis.
Oui, à l'occasion de la sortie du troisième album de l'histoire de la Légion en bande dessinée, Guy le Hideux et de Fanfan et les Cigognes, Pierre Probst, la nouvelle librairie de l'Homme Nouveau, c'est tout ça très nouveau, nous accueille pour une nouvelle après-midi de dédicace le mercredi 5 mai à partir de 14h.
Le 5 mai,
c'est fait. Oui, c'est un peu tard peut-être. Nous a accueillis, voilà. Alors donc c'est une annonce, c'est une information. Voilà.
Et alors je vous dis aussi que une grande marche pour la liberté de conscience est organisée le jeudi 20 mai à Paris. Le rassemblement aura lieu à 14h, place d'Enfer Rochereau. L'arrivée est prévue vers 16h au mur de la paix sur le champ de Mars.
Alors, on parlera tout à l'heure avec François Planté, je pense, des grandes marches.
Pour c'est un excellent restaurant à côté de l'Opéra, hein, les grandes marches.
Oui, c'est bien. Celui-là qu'on parle. Alors, parce que maintenant, on organise des grandes marches ou des sittings. Oui. Des sittings pour la mise en route d'une nouvelle politique, des grandes marches pour l'arrêt des politiques anciennes.
Et rappelons que, comme chaque année à la Pentecôte, l'association Notre-Dame de Chrétienté organise son pèlerinage, ce sera le 22e cette année, de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, et vous êtes en les 29, 30 et 31 mai prochains. Inscrivez-vous en masse. Pour toute information, Notre-Dame de Chrétienté, 49 avenue de Paris à Versailles, téléphone 01 39 07 27 00.
Alors je signale qu'il y a aussi l'autre pèlerin, celui qui fait de Chartres Paris.
Je n'ai pas de texte.
Ils nous ont pas envoyé de. Bon, bah, tant pis pour eux, parce que je dis, moi je sais.
Mais ils en verront d'ici là.
C'est celui qui a ma préférence, mais. Mais on se rencontre en forêt, c'est très bien.
Il manquera Nounours.
Alors, pour cette, il manquera Nounours, mais il nous manquera toujours Jean Nourigat, et ça, on n'est pas prêt de s'en remettre. Dans cette deuxième partie, je reçois Philippe Prévost, écrivain, avec qui nous allons parler de son livre La France et l'origine de la tragédie palestinienne. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre le docteur François Planté qui nous dira quelques. Oui, ça vous va?
Oui, mais avec vous.
Je n'ai pas parlé de tout, dialogue. Le docteur François Planté qui nous apportera quelques éclaircissements sur les troubles de l'attention et du comportement, plus communément appelé entre nous le détronchage. Voilà. Philippe Prévost, donc vous êtes historien, vous êtes écrivain, et vous avez eu l'excellente idée de consacrer un livre aux accords Sykes-Picot. Alors je signale à l'auditeur mal intentionné qui nous a envoyé un message qu'on a le droit d'être bas de plafond, mais que les oreilles c'est comme les pieds, ou plutôt c'est pas comme les pieds, ça se lave, et qu'il a jamais été parlé à ce micro d'accord Sykes-Picot, mais bel et bien d'accord Sykes-Picot. Voilà.
C'est à moi qui veux filer une barre, en plus.
Il est déterminé à gifler ce pauvre Chériguès qui n'a dit mot sur cette affaire. Alors remarquez qu'il ne dit mot qu'on sent. Hein. Donc les accords Sykes-Picot, c'est en quelque sorte la racine du cancer qui se développe aujourd'hui au Proche-Orient.
Pas tout à fait, parce que si les accords Sykes-Picot avaient été appliqués, justement, il n'y aurait pas eu, puisque les accords Sykes-Picot, qui a été signé en 1916, il faut quand même rappeler que en octobre 1914, bien sûr, les Turcs entrent en guerre. Et à ce moment-là, les Français, les Anglais et les Russes, pensant que les Turcs étant l'homme malade de l'Europe vont s'écrouler rapidement, se partagent des dépouilles. Les Russes veulent absolument Constantinople et les détroits.
C'est pas nouveau d'ailleurs, ça fait.
C'est pas nouveau. Mais ils voulaient absolument en profiter. Les Français voulaient récupérer la Syrie qui leur avait été promise à la conférence de Berlin, et les Anglais, bien sûr, mettent la main sur le reste. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, les Turcs se battent fort courageusement, et les Anglais ont l'idée de prendre les Turcs à revers, d'autant qu'il y a le shérif de la Mecque, qui s'appelle Hussein, qui ne demande qu'une chose, c'est à se révolter contre son suzerain, le sultan. Mais il pose quelques conditions, et ces conditions sont simples, c'est qu'on ait un grand royaume arabe, qu'il ait un grand royaume arabe.
Ça, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie, là, que vous nous racontez.
Non, pas tout à fait. Alors, il y a des conversations qui se déroulent entre Sir Henry MacMahon et puis le shérif Hussein, qui n'aboutissent pas, parce que Sir Henry MacMahon sait très bien que la Syrie sur laquelle Hussein a des visées, la Syrie a été promise à la France. Et que l'Angleterre tient à conserver aussi les points d'attache qu'elle a, en particulier à Bassora et à Bagdad, puisque déjà il y a des odeurs de pétrole dans la région. Alors, il faut absolument faire remonter ça à Londres, et il y a des conversations qui se déroulent à Londres depuis novembre 1915 jusqu'à mai 1916 entre les Français et les Anglais. Celui qui représente les Français, c'est François-Georges Picot, qui est ancien consul général à Beyrouth et qui a été nommé à Londres après la guerre, après l'entrée en guerre de la Turquie.
Et dont la descendante sera Olga Georges Picot, comédienne fortement dénudable.
Olga Georges Picot. Ça, je ne rentre pas dans ces considérations.
Non, mais c'est un fait historique.
Et alors, les accords Sy Picot prévoient en particulier que les lieux saints, que la Palestine, une petite Palestine, sera internationalisée. Internationalisée, ça veut dire simplement que la France et l'Angleterre, bien sûr, auront un droit de regard sur ce territoire. Pourquoi les accords Sykes-Picot n'ont-ils jamais été appliqués? Alors, il y a trois raisons essentielles, et c'est ce que j'ai détaillé dans mon livre. La première raison, c'est que, vous savez que les Français, les Anglais, et les Russes d'ailleurs, quand ils sont entrés en guerre, et même les Allemands pensaient que la guerre serait courte, fraîche et joyeuse, comme d'habitude d'ailleurs, la guerre est longue et fort coûteuse, non seulement fort coûteuse en hommes, mais aussi fort coûteuse en argent. Or, la France et l'Angleterre, ont suspendu la convertibilité en or. En sorte que quand on veut emprunter, soit les pays neutres, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis, il faut passer par l'Angleterre, qui elle a toujours la livre appuyée sur l'or, il faut passer sur l'Angleterre, et c'est l'Angleterre qui emprunte. Alors ça c'est très bien pendant un certain temps, mais au bout d'un certain moment, l'Angleterre a plus de sous. Et c'est ce qui se passe en fin 1916, vous avez un changement de gouvernement à ce moment-là, Lloyd George remplace Laura Squitch, et fin 1916, début 1917, se pose la question angoissante, comment remplir les caisses? Car la France n'a plus un sou pratiquement, et l'Angleterre, idem. Alors, à ce moment-là, Lord Balfour, qui est le nouveau secrétaire au Foreign Office, s'en va aux États-Unis tendre la sébille. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les États-Unis qui viennent de rentrer en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche ne se hâtent pas du tout de donner de l'argent aux Anglais. Ils ne se hâtent pas du tout parce qu'ils veulent que les Anglais acceptent de partager leur but de guerre. Or, quel est le but de guerre des Américains? C'est de créer un centre national juif en Palestine.
Oui, vous appelez ça les Américains, vous?
Oui. Enfin, ce sont, disons, les Juifs de New York qui dominent les États-Unis, qui vont obliger le gouvernement américain, qui ne demande pas mieux d'ailleurs, que de tout simplement.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la grande banque juive des États-Unis dit à la France et à l'Angleterre, si vous voulez du fric pour continuer la guerre, il faut nous autoriser à créer Israël.
Exactement. Enfin, un centre national.
Ah, oui,
on parle pas encore d'Israël. Et alors, cette grande banque juive, effectivement, avait au début de la guerre épousé la thèse des empires centraux, par haine d'ailleurs du tsarisme. Et vous remarquerez que les États-Unis rentrent en guerre 3 semaines après la chute du tsarisme, ce qui n'est peut-être pas une simple coïncidence. Hein. Alors, pendant ce temps-là, notre ami Picot, qui avait donc, avec son Marc Sarek, était l'artisan des accords Sykes-Picot, notre ami Picot, qui restait en Angleterre, à l'instigation de son Marc Sarek, reçoit un certain nombre de hautes notabilités juives, qui sont alertées, parce que les accords sont secrets, les accords Sykes-Picot, mais bien sûr, un certain nombre de gens les connaissent, et les Juifs ne veulent absolument pas d'internationalisation des lieux saints. Alors, il reçoit d'abord le grand rabbin de Londres, ça ne marche pas du tout entre eux, et il va, Sir Max Haig, lui faire rencontrer Sokolov, Naum Sokolov, qui est un peu le ministre des Affaires étrangères des sionistes en Angleterre. Et là, il y a une excellente entente entre Picot et Sokolov, et Picot, Sykes et Sokolov se réunissent entre eux plusieurs fois. Picot, qui revient en France régulièrement, parce qu'il a sa famille qui est restée en France, rapporte au président du conseil de l'époque, qui est Aristide Briand, ce qu'il fait en Angleterre. Et Briand l'encourage. Il l'encourage à continuer. En effet, écrit Picot dans un de ses comptes rendus, en donnant à l'immense communauté juive le sentiment que la France continuait sa politique traditionnelle de libération, et que parmi tous les peuples pour lesquels elle le faisait, les Juifs n'étaient pas les derniers, les alliés s'assureraient partout plus ou moins la collaboration active de groupements dont le rayonnement et l'action ne pouvaient être exagérés. Mais voilà que Aristide Briand tombe le 17 mars, le 20 mars 1917. Et il est remplacé par Alexandre Ribot, qui est un ami de la famille Picot. Ribot, m'a-t-on dit, était un homme fort intelligent, mais il avait un défaut, c'est qu'il n'arrivait pas à se décider. Il était un peu comme l'un de Buridan, il n'arrivait pas à se décider. Enfin, très peu de temps avant de partir pour la Palestine, où il avait été nommé haut-commissaire conjointement avec Saëc, Picot réussit à lui arracher la permission de donner, de rencontrer, de faire rencontrer Sokolov, de le faire venir à Paris, et de le faire rencontrer officiellement par Jules Cambon, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, et de lui donner une petite formule. Et voilà ce que dit Picot. Ribot lui dit un jour, « Eh bien bon, préparez-moi un texte, je le discuterai, et puis si je l'adopte, je vous autoriserai à aller chez Jules Cambon, et dans son bureau, vous appellerez M. Sokolov afin que Jules Cambon lui remette la formule. Il encaissera ce que vous aurez fait. » Et effectivement, Georges Picot, Jules Cambon reçoivent, et de Marjorie, qui était directeur des affaires politiques à l'époque, c'était le troisième personnage du Quai d'Orsay, ils reçoivent Sokolov le 9 avril 1917, et Picot lui remet un texte dont je lis simplement la dernière phrase. Le gouvernement français qui est entré dans la présente guerre pour défendre un peuple injustement attaqué, et qui poursuit la lutte pour assurer le triomphe du droit sur la force, ne peut éprouver que de la sympathie pour votre cause, dont le triomphe est lié à celui des alliés. Je suis heureux de vous en donner ici l'assurance. Alors c'était formidable pour Sokolov, c'était un premier point, un point important. D'autant que Picot et Saëc s'en vont au Caire, s'en vont en Égypte, mais avant d'y aller, ils passent par Rome. Pourquoi ? Parce que, à l'instigation de Picot, Saëc, un catholique, un vieux catholique anglais, c'est-à-dire un catholique dont la famille est toujours restée catholique, même à travers les persécutions, Sir Marc Saëc, qui est député au Parlement, donc qui n'est pas tout à fait n'importe qui, obtient que le pape lui-même reçoive Sokolov. Sokolov va être reçu par le pape, et Camille Barrère, notre ambassadeur, auprès du Quirinal, puisque nous n'avons plus d'ambassadeur auprès du Vatican, nous avons rompu une relation en 1904, il ne faut pas l'oublier, et Camille Barrère écrit à Ribot, qui est ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, et lui écrit en disant qu'il serait absolument nécessaire que M. Sokolov soit reçu au retour, parce qu'il a été très bien reçu au Vatican, il était très bien reçu au Quirinal, il était très bien reçu par le président du Conseil italien. Et effectivement, à son retour en juin, Sokolov est reçu le 4 juin par Jules Cambon, qui
Sokolov
lui remet...
dont il faut rappeler qu'il n'a en réalité aucune légitimité démocratique, comme on dit aujourd'hui.
Pas du tout. C'est un simple particulier qui ne tire son importance que parce qu'il est, au fond, le secrétaire général des sionistes.
Voilà.
Hein, des sionistes anglais, attention. Et alors, il est reçu à nouveau par Jules Cambon, qui lui remet cette fois-ci officiellement la lettre.
C'est extraordinaire.
Et alors, pendant ce temps-là, nos deux amis arrivent au Caire. Et ils vont au grand quartier général anglais, du général anglais qui s'appelle général Murray, qui décide de s'emparer de Gaza. Et il s'empare de Gaza, mais comme tout bon général anglais, il a un profond mépris des natifs de là-bas, des Turcs en particulier, et il est 5 heures du soir, il dit « Écoutez, retirons-nous sous nos tentes, nous reviendrons demain, allons prendre notre cup of tea, et nous reviendrons tranquillement le lendemain. » Mais quand il revient le lendemain, malheureusement, les Turcs, qui ne sont pas complètement idiots, se sont réinstallés dans Gaza, et solidement réinstallés, et les Anglais, évidemment, ne peuvent pas s'emparer de Gaza une deuxième fois. Alors, nos deux amis s'en vont, puisqu'ils sont un peu au chômage, puisqu'ils étaient partis là-bas pour être haut-commissaire en Palestine. Alors, ils s'en vont d'abord faire un petit tour en Arabie Saoudite, et puis, comme rien ne vient, de toute façon, le général Murray a été renvoyé. Il est remplacé par le général Allenby. Et Allenby leur dit, écoutez, bon, c'est pas demain la veille qu'il y aura lieu la prochaine offensive. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, Saïk s'en va en Angleterre. Et Picot, après, on le rejoint. Picot, qui a toujours, d'ailleurs, son bureau là-bas, à l'ambassade de Londres. Il passe par Paris, il voit Ribot, et les personnels politiques français, et puis il continue sur Londres. Et il était en train de travailler à son bureau, le 1er novembre 1917, lorsque Sir Marc Saëc vient le voir, au sujet de la discussion qui s'était engagée à propos de la fameuse déclaration Balfour. En effet, il faut savoir que le gouvernement anglais était extrêmement divisé à propos de cette déclaration, car un certain nombre de ministres voyaient très bien le piège dans lequel ils allaient s'enfermer, et en particulier, ils voyaient très bien que les Arabes allaient se retourner contre eux. Et il y en avait un en particulier, un ministre qui était tout à fait hostile et qui était anti-sioniste à fond, c'était Lord Montagu, qui était juif lui-même. Alors c'était quand même très très ennuyeux. En effet, la fameuse déclaration prenait, la discussion prenait très mauvaise tournure pour les sionistes. En effet, lui dit Sir Mark Saek, il faut vite venir car le gouvernement anglais ignore ce qu'a fait le gouvernement français. Les fameuses petites notes qui avaient été remises à Sokolov. Est-ce que sans demander d'instruction à Paris, vous pouvez venir aujourd'hui à Downing Street et dire à nos ministres ce qu'a fait notre gouvernement ? Ce sont des cas, ajoute Picot, où il faut se décider instantanément et sans en référer à ses chefs. Je lui répondis donc, je suis prêt à y aller avec vous et à lire notre formule. Partons, partons, me dit-il, parce que la discussion sera prise, la décision sera prise ce soir et que c'est urgent. J'arrivais et j'exposais les faits à mes interlocuteurs. Je dois avouer que les ministres anglais parurent excessivement étonnés que le gouvernement français soit allé aussi loin qu'il l'ait fait depuis tant de mois, sans qu'ils le sussent, sans que même ils le pressentissent. Le soir même, la formule Balfour était adoptée. Le lendemain, elle était envoyée à Londres, Chine. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau que j'ai découvert dans les papiers Picot.
C'est passionnant. C'est vraiment quand on pense que c'est la racine de ce qui se passe aujourd'hui.
La racine de ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. On est à la racine. Et c'est un Français qui était conseiller d'ambassade. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller d'ambassade ? Enfin, je ne veux pas insulter les conseillers d'ambassade, loin de moi. Enfin, ce ne sont pas quand même des personnages d'une première importance. Eh bien, c'est lui qui a réussi à obtenir que le gouvernement anglais prenne la décision, enfin, envoie la fameuse déclaration Balfour, qui est en fait une lettre de Lord Balfour à Lord Rothschild.
Alors, ce qui est curieux, c'est que on parle toujours de la déclaration Balfour, mais on ne parle jamais de la racine française de la déclaration Balfour.
Parce que c'était ignoré jusqu'ici. Ouais. Parce que j'ai découvert, justement, dans les papiers de la famille Picot.
Parce que la déclaration Balfour n'a été écrite que parce que le gouvernement britannique...
Non. Non, il ne faut pas dire ça, quand même. La déclaration Balfour a été écrite, réécrite, ça a été pesé au trébuchet et tout. Mais au moment de l'envoyer, ça a été discuté en Conseil des ministres, Conseil des ministres anglais. Mmh. Et il y a toute une partie des ministres qui disaient, mais c'est de la folie, on va se mettre à dos tous les... Lord Montagu, dont je vous ai parlé, c'était quand même un ancien vice-roi des Indes. Or, aux Indes, il y avait quand même un bon paquet de musulmans.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
L'Angleterre,
on va s'en apercevoir plus
l'Angleterre
tard,
hein. avait aussi des intérêts en Égypte. Il ne faut pas l'oublier non plus. Or, en Égypte, il y avait aussi des musulmans. Et vous n'imaginez pas quand même que l'Égypte était... Les musulmans égyptiens seraient prêts à accepter n'importe quoi. On le voit encore aujourd'hui. Hein? Donc tout ça, c'est tout à fait passionnant. Mais alors, la grande différence entre la déclaration... qui avait remis le gouvernement français à Sokolov et la déclaration Balfour, c'est que la déclaration Balfour est signée par un homme politique. Tandis que là, c'était un haut fonctionnaire. Or, tout le monde sait bien que les hauts fonctionnaires sont faits pour être désavoués en cas de besoin. Quoi. Bon, hein, c'est fait pour ça. Et puis, deuxièmement, les gouvernements français n'avaient pas osé faire savoir ce qu'il avait fait. Tandis que le gouvernement anglais va immédiatement le faire savoir, il va y avoir une grande réunion que Sir Mark Saek va organiser à Londres le 25 novembre, soi-disant pour que les juifs puissent remercier le gouvernement anglais. En fait, c'est pour que tous les juifs soient prévenus. Et à partir de ce moment-là, toutes les masses juives vont demander à ce que la Palestine soit confiée à l'Angleterre. Que le protectorat, que le mandat soit confié à l'Angleterre et non plus internationalisé. Mais il y avait quand même les accords Saek-Picot qui existaient toujours. Et là, va intervenir Georges Clémenceau. Georges Clémenceau va aller en Angleterre, après la guerre. C'est le 1er décembre. Il y va avec le maréchal Foch, qui n'est pas un homme politique. Et là, à un moment donné, il s'isole avec son homologue, qui est Lloyd George. Il s'isole dans une pièce de l'ambassade de France à Londres. Et il y a vraiment un dialogue extrêmement curieux. Clémenceau dit, bien, de quoi devons-nous parler ? De la Mésopotamie et de la Palestine, répondit Lloyd George. Dites ce que vous voulez, demanda Clémenceau. Je veux Mossoul. Vous l'aurez, a dit Clémenceau. Rien d'autre, c'est Clémenceau qui parle. Si, je veux Jérusalem, a continué Lloyd George. Vous l'aurez, a dit Clémenceau. Mais Pichon fera des difficultés pour Massou. Alors on vous dit, mais alors c'est un vieillard qui a cochime, qui perd la tête, qui propose... À mon avis, c'est pas ça du tout.
Ah, comment vous expliquez cette attitude de Clemenceau l'Américain
J'ai donné plusieurs explications, il y a plusieurs raisons, mais enfin, je vais aller très vite. Hein. À mon avis, d'après... Je n'ai pas de certitude. Ce que je propose, c'est une interprétation. À mon avis, il y a eu, avant la fin de la guerre, un véritable marché, des discussions entre Clemenceau, Lloyd George et le président Wilson.
Ouais,
n'oublions pas que les États-Unis étaient rentrés en guerre pour une raison, et une seule raison, pour créer un foyer, un centre national juif en Palestine. D'un autre côté, ce qui intéressait Clemenceau, c'était de récupérer l'Alsace-Lorraine, d'avoir des frontières solides à l'Est, et il ne voulait surtout pas aller se fourrer dans un condominium avec l'Angleterre. Il l'avait déjà refusé en 1882, au moment de l'affaire égyptienne, et il le refuse à nouveau. Et il le refuse d'autant plus, d'ailleurs, qu'étant anticlérical et forte, et de façon forcenée, comme il le dit, c'est le cardinal Baudrillard qui le rapporte dans ses carnets, « Je ne serai pas le sacristain du pape aux lieux saints. » Il ne veut pas des lieux saints.
Oui.
Donc, le marché...
Et donc, il n'est pas pour l'internationalisation non plus, puisque l'internationalisation, évidemment, conduisait à la sacralisation
à avec l'Angleterre.
Et puis en plus, au constat que la seule autorité morale qui pouvait s'imposer là-bas, c'était l'autorité du Vatican.
Du Vatican.
Et des églises, en tout cas.
Des églises. Ouais. Donc, le marché, à mon avis, a été simple. On a oublié les grands principes proclamés par Wilson.
Oui, bien sûr.
Et disant que les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., etc. Donc, la France récupérait l'Alsace-Lorraine sans plébiscite. Elle récupérait aussi, pendant 15 ans, la Sarre, au mépris de la volonté des populations. Elle s'installait sur la rive gauche du Rhin aussi, jusqu'en 1935. Hein. En fait, on a abandonné en 1930, enfin, peu importe. Tout ça sans plébiscite. À condition que les Anglais soient seuls en Palestine, et d'autre part, qu'on abandonne la Mésopotamie qui était bourrée de pétrole. C'est ce qu'on a fait, et voilà. Et on nous a donné, en compensation, une petite Syrie et un petit Liban. Terminé. Voilà.
Voilà comment on a, en quelque sorte, armé la bombe qui menace d'exploser, qui explose d'ailleurs tous les jours là-bas. Alors, ça, c'est un des aspects, une des révélations de ce livre passionnant qui s'appelle « La France et l'origine de la tragédie palestinienne, 1914-1922 ». L'auteur est Philippe Prévost, que vous venez d'entendre. Et que vous êtes un conteur remarquable. Hein. Vous arrivez avec des sujets qui sont quand même assez ardus, vous arrivez à intéresser et à rendre des choses claires. C'est la même chose dans le livre, mais ça passe très très bien vocalement. Voilà. C'est donc édité par CEC.
Centre d'études contemporaines, voilà. Dont la boîte postale.
La boîte postale, c'est boîte postale 4507. Boîte postale 4507, 75-325 Paris, CEDEX 07. C'est diffusé naturellement par Duquesne. Et le prix est de 20 euros, et je vous recommande vivement la lecture de ce livre qui apporte des lumières tout à fait intéressantes qui permettent une meilleure compréhension de la situation actuelle. Et comme disait je ne sais plus qui, partons vers l'Orient compliqué avec des idées simples.
C'est De Gaulle qui disait.
C'est pour ça que je disais je ne sais plus qui. Quand il s'agit de lui, je ne sais jamais plus qui c'est. Voilà, et puis une auditrice nous dit « Olga Georges Picot n'est pas la petite-fille de François, mais sa petite-nièce, elle est la fille de son frère Charles, qui était un personnage différent. »
C'est tout à fait ça.
Et bien sûr.
C'est ça.
Merci Monsieur Prévost. Et puis,
j'en prie, c'est moi qui vous remercie
de
m'avoir invité.
À bientôt pour de nouvelles aventures de l'histoire. Cher docteur, est-ce que vous avez fait preuve de toute l'attention nécessaire pendant...
J'ai quelques troubles de l'attention ce soir. J'ai pas fait attention.
Alors, pourquoi on propose ce sujet? Parce qu'on a remarqué dans nos conversations hors micro, qui sont longues, nombreuses et abondantes, qu'on pouvait quand même se poser sérieusement la question de savoir si notre pauvre pays n'était pas en train de devenir complètement fou. On s'en aperçoit de façon visuelle au comportement de la majorité des passants. On s'en aperçoit de façon auditive et même audiovisuelle en regardant la télévision et en écoutant la radio. On s'en aperçoit de façon intellectuelle en lisant certains textes et en constatant que les gens semblent avoir de plus en plus de difficultés à associer deux idées ensemble, à tirer les conclusions obligatoires de ces idées, et que le principe de non-contradiction est méprisé avec une allégresse surprenante. Vous avez des gens qui, dans la même phrase, vous disent le tout et le contraire de tout, et qui pensent qu'ils ont une fois pour toutes fait le tour de la question. Alors, ayant fait ces constats, j'ai dit à François Plantet, est-ce qu'il y aurait une explication clinique ? Et même, alors, allons plus loin, beaucoup plus qu'une explication clinique, une explication surnaturelle, ou en tout cas une explication biblique, plus que clinique, puisque on sait que François Plantet aime bien rechercher dans la Bible et dans les Écritures des équivalences avec la science la plus avancée aujourd'hui, notamment en matière médicale. Alors il a fait ce petit travail, il est arrivé à des résultats intéressants, ce qui ne m'a pas étonné du tout. Mais par exemple, une des choses qu'on a constaté, c'est cette espèce de curieuse manie du glissement maintenant,
oui.
Les sports
oui.
de glisse. Oui. Alors on voit dans Paris, d'ailleurs j'y pensais tout à l'heure, j'étais rue de Rivoli, et je voyais un type qui était véritablement, enfin moi à mon avis c'est un fou furieux. Quoi.
Ce sont des fous furieux.
Il était en petite culotte collante, avec un petit maillot collant, le crâne rasé, mon cher Vinosi, ça n'était pas vous, mais c'était une bonne imitation. Mais vous n'êtes pas en petite culotte, je m'empêche de le préciser. Et alors, il était à l'horizontale pratiquement, les bras dans le dos, sur des patins à roulettes à lame, et il fonçait, et il dépassait toutes les voitures et tous les taxis dans la voie réservée aux bus et aux taxis. Et je me disais, si jamais il y a un type qui sort un peu vite d'une rue adjacente, le gars il est mort, quoi, tout simplement.
C'est clair.
Et il avait, on sentait qu'il avait une espèce, à voir son visage quand je l'ai vu arriver, un enragement presque diabolique.
Oui.
Alors comment expliquez-vous ça?
Le maillot devait être en lycra, non?
Ça m'évoque le mouvement brownien, vous savez, dans les particules du cosmos qui se heurtent tous, comme si le cosmos avait été dérangé à un moment, et que ces particules qui sont peut-être pilotées par des anges se heurtent comme des substances closes sur elles-mêmes. C'est exactement l'impression qu'on a avec notre contemporain, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés complètement dans leur subjectivité et plus rien n'existe. Ils ne perçoivent plus l'extérieur, et quand ils ne regardent pas, ça n'existe pas. Ça, on l'a vu, mais ouais. on le voit 100 fois dans la chronique de ce qu'on pourrait appeler détronchage revisited, comme on dit dans les revues britanniques. Ça s'est aggravé depuis la dernière fois, il y a quelques années, on en a parlé. C'est-à-dire qu'on voit clairement que des gens traversent, ils voient arriver des automobiles, et ils tournent la tête de l'autre côté en se disant, si je ne les regarde pas, elles n'existeront plus. Autrement dit, c'est l'idéalisme de Berkeley en acte. C'est là qu'on peut passer à pieds joints la métaphysique la plus pure à la biologie moléculaire la plus pointue. Ces gens, le réel n'existe plus. Et d'ailleurs, l'incapacité à se concentrer est colossale avec ces conneries de téléphone portable, qui est quand même un truc épouvantable, quoi. C'est une machine à étendre la niaiserie, la bêtise. L'autre fois, j'ai eu une petite qui a failli se faire écrabouiller, donc elle était en train de fumer. Elle téléphonait, elle avait donc les mains occupées, puis je lui ai dit quelque chose de pas très grossier, puis je suis venu devant elle, comme ça je dis, espèce d'imbécile, c'est pas très charitable. Elle n'entendait pas, je lui ai répété, espèce d'imbécile. Et à ce moment-là, elle s'est réveillée, comment quoi, elle était pas très très contente, elle s'est cassée la figure. Elle était, et je l'ai fait 100 fois des coups comme ça. Fixer les gens, une espèce de crétin, et ils s'en aperçoivent pas.
Mais qu'est-ce qui se passe alors dans le cerveau à ce moment-là?
Mais le lobe frontal est hors circuit, ils sont magnétisés. Ça m'évoque un syndrome bizarre que Denis Brown à Harvard avait décrit selon de magnet apraxy, qui est que, par exemple, vous tapez sur la tête, et des gens se tapent sur la tête en même temps. C'est-à-dire que vous les pilotez dans leur mouvement.
Ouais.
Et il y a des gens qui ont réussi à tuer des gens en se les faisant se frapper eux-mêmes en simulant des mouvements. La magnétapraxie aussi, c'est le réflexe primitif du petit enfant
qui attrape le doigt
et qui serre. Hein. C'est-à-dire que puisque les structures supérieures qui assurent l'humanité, le lobe frontal, c'est 60% du cerveau, c'est pour ça qu'on n'est pas des singes. Hein. C'est ce qui nous permet de nous affronter. Enfin, c'est la partie royale de l'homme. C'est d'ailleurs là-dessus que c'est le grand prêtre.
C'est la plaque d'or, le commandement.
C'est le commandement. Hein. Le grand prêtre a une plaque d'or sur le lobe frontal, ce qui a certainement une signification de protection, comme les faudes. Hein. Tous ces ornements sont des gilets pare-balles antidémoniaques. Hein, peut-être on reverra ça sur l'histoire du Lévitique et des oreilles percées. Hein. Ouais. Et quand le lobe frontal commande plus, il reste les subroutines des noyaux profonds énergétiques du circuit limbique qui portent le système, hélas, autonome, celui qui nous empoisonne, celui qui porte le péché originel, c'est-à-dire que c'est la perte du contrôle des forces animales. Ouais, c'est ce que disent les pères grecs, quand Adam et Ève ont transgressé, les animaux se sont enfuis d'épouvante. Mais ça symbolise la perte des qualités animales, la force, le courage, la vitalité, qui sont d'ailleurs tout à fait représentées dans les armoiries, qui représentent la reconquête par le chevalier d'une des catégories des forces. Hein, si le type il est fort comme un lion, ben, il va avoir une armoirie avec un lion, puis avec... tout ce que le langage de l'héraldique peut représenter, des ésotérismes,
la douceur de la colombe,
toute cette puissance de ce langage hiéroglyphique qui est extraordinaire, qui c'est la reconquête des forces animales, c'est la symbolique du cheval aussi. Hein.
Donc à partir du moment où la passerelle de commandement, enfin où Adam et Ève qui sont eux la passerelle de commandement de la création sont chassés de l'organisme qui est la création, enfin qui est l'Éden, animaux, autrement dit les qualités animales
absolument
de cette créature
s'échappent, et il reste, et l'homme déchu commence à devenir une créature enflammée. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, hein, ils rougissent. Hein. C'est le contraire de truc hébreu, c'est vélo it bouchachou, ils n'avaient pas honte. Hein. C'est-à-dire qu'ils rougissaient pas quand ils sortent du paradis dans cet état d'inflammation, ils vont dans la forêt. Et je vous l'avais dit, je crois à l'époque, mon maître, le propriétaire du but, il disait... ils vont chercher la fraîcheur et la guérison par les plantes, hein, comme on va chercher la jouvence de la souris, parce que les anti-inflammatoires, ils sont là. Hein, c'est comme la feuille de figuier, c'est kiff-kiff. Ils vont se protéger. Quoi,
Donc, d'ailleurs, ils bouillonnent. Je sais pas, c'est le père Dubuc qui en tirait la conclusion que les feuilles dont ils se courent sont des feuilles de figuier.
Oui.
Mais il y a une autre hypothèse qui a été avancée, c'est que quand on dit Adam et Ève étaient dans leur splendeur, c'est parce qu'ils n'avaient pas de derme, puisqu'ils ne pouvaient pas être en proie aux agressions virales, puisque la création était bonne, donc il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de microbes dangereux, et donc il n'y avait pas besoin de derme et d'épiderme pour les protéger.
Non, c'est
Et leur splendeur, c'était la...
C'est l'esprit qui rayonnait et qui faisait qu'ils n'étaient pas nus. C'est-à-dire que chez eux, les forces végétatives, la circuiterie de base, c'était comme dans les rôles, on ne le voit pas, c'est un coup plombé, c'est un tout petit. Et tout le reste, c'était la pneumatisation, ce qui est... La voix, c'est pneumatisé, l'Esprit Saint qui vient, ça nous réinjecte dans nos circuits épuisés, la force de l'Esprit qui transfigure et qui, à la limite, vous fait vous envoler comme Saint Séraphim de Sarov ou Saint Vincent de Cupertino, je crois, qui s'envolait.
Oui, entre autres.
Et au moment, le truc s'est inversé en doigt de gant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, c'était des écorchés vifs. Ouais. C'est pour ça que Dieu leur a fait, il leur a pas fait, c'est pas un tailleur juif, hein, il leur a fait, il a pas fait, je l'ai fait costume des peaux, hein, il a pas fait ça. C'est la peau.
C'est la peau, c'est ça. On en dit de façon plaisante que on peut le vérifier puisqu'à l'endroit du périnée il y a la couture.
Absolument, mais c'est vrai. Hein.
Les anatomistes constatent qu'il y a une véritable couture à cet endroit qui n'a aucune explication.
C'est clair. D'ailleurs, ça s'appelle le rafé, hein, qui veut dire coude.
Oui,
hein,
bon.
Et à ce moment-là, la peau devient d'ailleurs quelque chose qui est du système nerveux à l'extérieur, parce que la peau est un organe d'une complexité incroyable qui est lié totalement au système nerveux, qui traduit toutes les émotions, qui est d'ailleurs du même feuillet, le mésoderme que le système nerveux central, qui est, hein, l'homme est écrit sur un livre à 3 pages, et celle du milieu, elle donne à la fois la peau et le système nerveux central. D'où le lien absolument. Hein, on dit je l'ai dans la peau, machin, ces expressions qui sont extrêmement riches. Hein. Au moment où le lobe frontal est plus capable d'inhiber, parce que c'est ça la qualité de l'être d'élite, c'est de s'inhiber. Hein. Le déprimé, quand on dit c'est pas un désinhibé, Il est complètement détranché, mais il n'est pas, il est pas désinhibé. Hein, et c'est, je veux dire, c'est le contraire. Le déprimé est totalement désinhibé.
Hein,
c'est-à-dire qu'il est, il est ralenti parce qu'il a trop d'avance à l'allumage. Mais la maîtrise de soi, l'immobilité du type qui claque des dents de peur, c'est pas l'immobilité du 9e dame de karaté qui attend l'adversaire, hein, ou du chevalier qui attend la charge à la bataille de Bouvines. C'est pas la même chose. C'est la maîtrise totale et la libération d'énergie. Au moment où il faut, ça part et bon.
Et ça, c'est représenté notamment dans les icônes, enfin dans les symboles traditionnels, par soit l'archange Saint-Michel, soit Saint-Georges,
oui.
Soit la Sainte Vierge,
ah, oui.
qui terrasse, qui ne tue pas,
oui. Hein,
qui terrasse le dragon.
Et qui le maîtrise et qui l'utilise.
Qui l'inhibe, hein, en quelque sorte.
En quelque sorte, parce que ses forces de base, c'est celle qu'il y a dans le caducée, mais quand c'est redressé, comme dans le... Quand Dieu dit à Moïse, les serpents vous piquent, vous allez construire un serpent d'airain qui est l'image du Christ, en fait, il redresse quelque chose qui est couché dans les deux dimensions. C'est une remise à la normale, au sens géométrique du terme, de ces deux courants d'énergie, qui sont l'équivalent des chakras, enfin du yin et du yang, et qui partent du cerveau jusqu'aux pieds, et qui portent l'énergie vitale et qui contrôlent la vie et la mort. Hein, tout est là. Quoi,
ce qu'il faut dire, c'est que ces explications ne tendent pas du tout à expliquer que, enfin, à prétendre que l'écriture est une écriture symbolique. L'écriture, c'est un récit de faits réels.
C'est un récit, mais le symbolisme, c'est la façon, c'est les hiéroglyphes de Dieu. C'est pas des métaphores.
Ce sont pas des métaphores.
C'est pas l'église concilière. Hein, c'est pas les aubes pour prénatal, pour pseudo-moine, comme dit le père Bouillet. C'est pas des allégories. C'est la connaissance de Dieu passe par ses armoiries, qui est le monde, hein, et qui chacun nous donne une idée des qualités de Dieu. C'est comme ça, Celi Inerrant Gloria Domini. Enfin, tout est là pour nous montrer. Hein. Donc, alors, à partir de là, la Bible est un récit. Enfin, c'est un document invraisemblablement prodigieux. Seulement, il faut savoir le lire. Hein. On peut passer complètement à côté si on n'a pas l'esprit qu'il faut, parce que après, c'est une profondeur insondable. Et dès le début, on a les éléments fondamentaux de ce. D'ailleurs, le Bereshit, hein, c'est la tête qui est en premier. Ça ne veut pas dire au commencement.
Bereshit Bara Elohim, c'est les premiers mots de.
Oui.
Bereshit,
ça ne veut pas dire le commencement, puisque ça se dit Matril en hébreu. Hein, ça veut dire le principe. Les lettres Reshin et Tav, ça veut dire la tête. Hein.
Ça veut dire aussi Bereshit, ça veut dire aussi par le réseau.
Parce que c'est une lecture supplémentaire. Hein. Alors on peut dire par le réseau qui est dans la tête, l'homme stabilise la création. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a un réseau fantastique. Et le mot Reshet, qui c'est donc en hébreu, on peut changer les voyelles. En hébreu, ça veut dire aussi le réseau. Hein, donc, Dieu tisse un réseau. Hein. D'ailleurs, peut-être on pourra revenir là-dessus, parce que là-dessus, il y a une vision effrayante d'Internet en tant que caricature de création.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Esprit Saint, et il y a une caricature de l'Esprit Saint, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a effectivement la caricature du réseau divin qui est représenté par Internet. Mais je voudrais. On parlait de la. Donc,
oui,
de
on, la on parlait du lobe frontal. À ce moment-là, les gens deviennent comme les hypomaniaques, c'est-à-dire que les noyaux moteurs profonds énergétiques qui sont dans le mésencéphale, le tronc cérébral, le circuit limbique, l'hippocampe et tout ça, commencent à prendre le dessus. À ce moment-là, c'est le verbiage infernal qui est au maximum. Moi, je trouve qu'une belle image, hein, c'est les bruits qu'on entend dans l'Exorciste, le film. On entend toutes ces voix, ces hurlements, c'est la nef des fous de Jérôme Bosch. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite au psychisme qui est une véritable hydre. Hein, comme plus on la coupe, plus ça pousse. Et on rentre dans le domaine du multiple, qui est une catastrophe. C'est le murmure des grandes eaux. Les gens qui sont autour de nous, ils bavent toute la journée sur des stupidités hallucinantes. Enfin, il suffit d'écouter trois conversations.
Vous parlez du murmure des grandes eaux, et on a remarqué qu'il y a eu une campagne sur les frontons des églises récemment
dans le quartier. Voilà. Est-ce que c'est toutes les églises ou une seule?
C'est pratiquement toutes les églises.
J'ai jamais vu quelque chose d'aussi inepte, et pourtant, donc ça, j'ai vu à Notre-Dame d'Auteuil, c'est engagez-vous en eau profonde. C'est-à-dire le contraire de toute la symbolique de tout l'évangile, hein, à commencer par la création, puisque quand Dieu sépare les eaux d'avec les eaux, hein, au deuxième jour, il dit pas Raya Elohim Kitov. Il dit pas que la création est bonne. Il dit pas non plus qu'elle est mauvaise.
Non, il dit rien.
Il dit rien. Il dit simplement pourquoi c'est comme ça. Parce que ce jour-là, il est binaire, donc il est instable.
Hein, c'est le seul moment d'ailleurs sur les six jours de la création.
C'est le seul
où il n'est pas dit et Dieu vit que ça a été bon.
Mais au troisième jour, quand il crée le sec, À ce moment-là, le mot bon est répété deux fois. Pour dire qu'à ce moment-là, il est répété deux fois pour indiquer que le deuxième jour est en quelque sorte sanctifié par l'apparition du sec, hein, qui est drôlement important, hein, parce que c'est là qu'on...
Alors, ça, on va en parler tout de suite, mais correction d'un auditeur, c'est pas Saint-Vincent de Cupertino, c'est Saint-Joseph de Cupertino.
C'est ça.
Voilà. Vous avez perdu un point, docteur.
Mauvaise limonade.
Vous pouvez quand même revenir en deuxième.
Est-ce que je peux me rattraper sur le...
J'ai le droit de vous rattraper. Enfin, sur, vous allez faire maintenant essayer de sauter par-dessus la maison à pied. Bien. Donc revenons à ce dont on était en train de parler.
Donc on parlait, je crois, de la symbolique des eaux. Oui. Dès le début de la création, l'apparition du sec avait hiéré à Rabba et Yabasha, le sec fut vu. C'est le sec, c'est là où vous échappez au murmure et à l'envahissement dans les eaux. Et c'est attesté, ce danger des grandes eaux que le roi David va toujours dire, les eaux dévoraient mon cœur, elles m'envahissaient, qui est d'ailleurs la mort par l'arrêt cardiaque. Vous avez un œdème du poumon, vous êtes rempli d'eau et vous mourrez, quoi. Hein. L'humide, c'est un truc glauque, hein, qu'on voit aussi dans les plaies d'Égypte. Hein. Mais quand Jonas se sauve à Tarsis, à Jaffé, pour pas accomplir la mission que Dieu lui donne, Dieu fait souffler un vent, le bateau est en danger, les marins commencent à jeter tout, puis ils jettent les sorts, vous savez, Goralot, là, on sait pas trop ce que c'est, mais enfin des osselets, et puis les sorts disent c'est lui là-bas. Donc ils viennent le voir, ils disent tu es toi, il dit moi je suis hébreu. J'adore Dieu qui a créé le ciel et la terre et le sec. C'est extraordinaire ça, parce que juste pourquoi ? Parce que l'histoire de Jonas, c'est qu'il va être sauvé par un poisson, donc il va être entouré par l'huile, par le poisson qui est le Christ. Hein, c'est les anagrammes. Christ, c'est le poisson. Il vient de dire, en plus, il est arrivé dans l'ère des poissons. Il le protège, et quand Jonas pleure, etc., et il va le déposer sur le sec. Hein, donc c'est l'homme est sauvé quand il est de pied ferme avec Dieu sur le sec. Or, qu'est-ce qu'il nous propose les autres tête à claque là, hein, de nous engager dans l'eau où il y a Léviathan, ouais, qui est le propre de l'horreur alors que le Christ marche sur les eaux pour montrer qu'il a maîtrisé la multiplicité. C'est pas pour le plaisir de faire des miracles, ça on sait qu'il peut, hein, mais c'est parce que quand il marche sur les eaux, il stabilise la potentialité universelle qui est ce miroir tout le temps grouillant, quoi, qui est, on pourrait dire, c'est l'inconscient freudien, c'est-à-dire quelque chose qui vous aspire vers les abysses et puis qui où on descend de plus en plus jusqu'à la mort, quoi, hein. Enfin, c'est clair, hein. Donc, et nos contemporains, ils sont devenus des espèces de sources impures, de verbiages inlassables, avec bien entendu, quand c'est comme ça, les qualités de virilité ou de féminité disparaissent, hein. Il n'y a plus la puissance du lobe frontal qui contrôle tout le circuit endocrinien, donc la fécondité baisse en Occident parce que les mâles d'Occident, ils ressemblent plus à rien, quoi. Hein, je voudrais pas faire de la peine à nos amis. Et vous voyez le pousseur de landau de basse de 25 ans avec maman qui fume à côté.
C'est pas
très excitant. Ça vous pousse pas à faire des séries d'enfants. Et en plus, c'est des têtes à claques, quoi. Il faut bien le dire. C'est pas le rôle d'un homme de faire ça. Ni d'aller faire les courses au supermarché, sauf exception, quoi. Hein. Donc, après, on s'étonne qu'il y ait 25% de moins de fécondité dans le sperme des hommes.
En tant que les courses au supermarché, moi, je suis pas tout à fait de votre avis. Je trouve que pendant que la femme reste à la cuisine, d'aller faire les courses au supermarché, ça évoque assez bien le travail de l'homme préhistorique.
Ah oui,
qui allait chasser le mammouth.
On peut le voir comme ça.
Dans la caverne. Moi, chaque fois que je vais au supermarché, c'est comme ça que je me vois. Hein.
Évidemment, pris comme ça, ça peut très bien se défendre. Hein.
Vous avez évoqué tout à l'heure alors je vais être obligé d'employer encore une fois un mot anglais, je prie notre auditeur de bien vouloir me pardonner. Vous avez évoqué le piercing.
Indeed.
Alors,
ça évoque un truc très, très précis. Hein. Déjà, quand il est dit tu porteras pas le fer contre le temple de Dieu dans la construction du temple, il est évident que ça s'applique également à l'homme qui est le temple. Hein. Bon, c'est clair. Mais c'est surtout dans les passages de l'Exode et du Lévitique, ces passages où personne connaît parce qu'ils semblent complètement fous alors que c'est peut-être les plus extraordinaires, quoi. C'est l'affranchissement des esclaves, hein. Au bout de tant d'années, l'esclave sera affranchi, il va se s'en être, il deviendra libre et tout. S'il ne veut pas être affranchi, à ce moment-là, il sera plus affranchi, mais on lui percera l'oreille et il aura un anneau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là ? Et Origène le commente magnifiquement bien, ainsi que les rabbins. Hein. Il dit, ça supprime à jamais la possibilité de la liberté, de la connaissance de la liberté de l'homme libre dont l'enseignement passe par l'oreille, hein, puisque c'est écoute mon fils la voix de ton maître, c'est l'oreille, c'est le sens, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est le sens le plus subtil, c'est par là qu'on a la connaissance, c'est pas par l'image, hein, c'est par la parole et par et même pas par le livre, hein, c'est par le verbe qui rend d'ailleurs la symbolique des crosses des évêques, par exemple, c'est une oreille là que la crosse de l'évêque. Hein. Donc,
oui, c'est le colimaçon.
Voilà, symboliquement, ces gens se ravalent à une situation d'animal. Hein. Et même, elles ont raison, les filles, elles se mettent des anneaux dans le nez, ça doit aider pour les amener à l'abreuvoir le soir quand il faut les nourrir, quoi. Hein. Et le soir, on les attache pour éviter qu'elles nuisent quand elles vont se shooter, quoi. Hein. Donc, c'est extrêmement impressionnant parce qu'en même temps, ça donne une allure qui est vraiment démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a bien, des artistes du Moyen-Âge. C'était pas leur imagination. Ils peignaient la réalité des formes démoniaques. C'est-à-dire le niveau, la forme la plus informe sans qu'elle soit totalement sans forme. Hein, c'est-à-dire, après, ça, il pourrait plus ne pas exister. Mais ce qui reste de la forme de ces êtres démoniaques et tout, c'est quoi dans les gargouilles et choses comme ça. C'est-à-dire des choses improbables, horribles, instable, bougeant tout le temps, hein, ce mouvement incessant qui a, c'est une agitation monotone en plus, parce que ces foules, elles sont agitées comme des crétins par le foot ou des machins comme ça, puis après on les immobilise brusquement par des grèves, puis on les fait repartir ou on les fait, ou dans ces stupidités de marche silencieuse là qui sont d'une niaiserie, qui sont en train d'une espèce de liturgie de crétins, quoi. Hein, oui. On n'a jamais connu ça. Hein,
Mais là, alors oui, ça, on va y venir après, si vous voulez, sur le caractère complètement idiot des liturgies laïques.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui se passe. Mais sur l'espèce de délire démoniaque qui s'empare notamment des jeunes avec la musique. Il y a une chose qui est très frappante, c'est que moi, je me souviens quand on a vu les premiers danseurs de hip-hop, comment on appelle.
Oui. Breakdance.
C'était très, très surprenant parce qu'on a, c'est des figures qu'on n'avait jamais vues, mais elles avaient un caractère familier malgré tout. On n'avait jamais vu personne danser comme ça. Même les nègres américains de l'époque de la naissance du jazz ne dansaient pas comme ça. Et je me disais, mais c'est curieux, on a l'impression d'avoir... Et un jour, on en parle et vous m'avez dit, mais regardez les tableaux de Jérôme Bosch, ce sont les damnés et les démons qui, dans les tableaux de Bosch ou au fronton des cathédrales, ont ces positions qui sont des positions aberrantes que normalement le corps ne peut pas observer.
Ça ressemble à ce qu'on voit dans les lésions des noyaux moteurs des ganglions de la base là, qui supportent le mouvement. Hein. C'est 3 millions de neurones sur 1000 milliards, donc c'est des perles précieuses. Dans ce qui est la choré de Huntington ou danse de Saint-Guy, les gens ils ont des mouvements de ce genre, hein, des mouvements choréo-athétosiques bizarroïdes, et aussi dans cette mystérieuse maladie qui est la maladie de Gilles de la Tourette qui touche où les gens ils apparaissent vraiment comme des possédés. Hein. Ils le sont pas. Hein.
La maladie de la Tourette, c'est aussi une maladie où on se met à proférer des insanités.
À proférer, voilà, coprolalie. Ouais. J'en ai vu deux cas comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Shapiro à New York, il en a une série de 50 ou 60, ce qui est beaucoup parce que c'est quand même rare. Hein. Donc, il s'agit de caricature du mouvement. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui est devenu mécanique. C'est, comme je disais ce matin, c'est pas plus vivant que quand vous faites bouger un cadavre en envoyant de l'électricité. Hein. Parce que la véritable danse, c'est d'une harmonie profonde, hein, c'est une danse divine, hein, que ça soit la danse classique, les danses guerrières des Grecs ou les danses modernes de salon.
Alors une auditrice nous passe le message suivant. Les déficiences intellectuelles actuelles sont dues aux ondes électromagnétiques envoyées par les antennes relais des téléphones portables. La France est couverte de ces ondes. Nous vivons dans ces ondes et sous ces ondes. Résultat, cancer du cerveau, du poumon, leucémie. Déficience intellectuelle, perte de mémoire. Est-ce que ça vous paraît une explication plausible?
C'est une partie de l'explication, mais enfin, avant qu'ils se développent, les téléphones portables, le détronchage était déjà bien avancé. Hein. Oui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, au moment où les champs, où la valeur du champ électromagnétique terrestre a commencé, effectivement, moi je crois que l'explication, elle est dans ces énergies subtiles. C'est-à-dire avant l'électricité et après l'électricité. Hein. D'ailleurs, l'exposition universelle avec la fée électricité, là, ça me paraît pas net du tout. Hein. Hein, à l'époque où ils ont construit la tour Eiffel, c'est mauvaise limonade. Hein. D'ailleurs, tout le 16e, là, il est marqué hein, par les ondes. Hein. Ouais. Nous, on est là, il y en a des ondes dans le quartier. Hein. Puis il y a Benjamin Franklin. Enfin, oui. Là, on ne rentrera pas dans ces choses qu'on réservera peut-être aux camarades si on leur fait une petite
Oui, parce qu'on peut dire quand même aux auditeurs qu'on envisage de faire... Enfin, vous envisagez...
Avec vous.
De faire avec moi une série de conférences sur... une autre façon de visiter Paris, une autre façon de découvrir Paris, de connaître Paris, la géographie sacrée, la géographie cachée de Paris,
voilà.
Sans reprendre les travaux de nos illustres.
Non, c'est un peu. D'ailleurs, j'en avais parlé avec mon cher Jean Faure avant. Mmh. C'était chose un peu originale. Bon, il est évident que cette charge électromagnétique, je crois que ça atteint 3 500 000 gauss, alors que le champ terrestre c'est 0,22, donc c'est colossal. Quoi. Ouais. On est encerclé. Alors, l'histoire de l'Internet, c'est donc un filet qui caricature le filet et la pêche du Christ. Parce que lui, il va à la pêche au filet dans une humanité qui est devenue effectivement aussi grouillante que des poissons et aussi instable que des poissons parce qu'ils n'ont plus de pieds. Hein. Ou ils mettent des patins à roulettes ou ils ne tiennent pas sur leurs pieds. D'ailleurs, c'est dans la prophétie de Daniel, c'est le colosse aux pieds d'argile. Les gens ne tiennent pas. Enfin, regardez les mecs qui sont à notre tête. Est-ce que vous les verriez à la bataille de Bouvines? Est-ce qu'on imagine Raffarin à la limite à la cantine en bas arrière pour vendre des tasses de café, hein? Mais est-ce qu'on voit ces petits bonhommes qui ressemblent à rien, hein, avec leur cravate vulgaire et tout? Est-ce qu'on les imagine? Est-ce qu'ils ont une prestance de type qui a les pieds plantés dans la terre? Non, hein, c'est des instables, des types mouligas. C'est l'ensemble de la population est comme ça. Ça frétille, hein, quand vous regardez un match de foot. Un truc comme ça, c'est frétir. C'est vous qui m'aviez raconté l'histoire de Laola. Oui. Il y a un mec qui est en train de discuter avec sa femme.
Oui, bien, c'est un film qui s'appelle. Je ne sais plus, avec Meg Ryan et je ne sais plus quel comédien. Il y a une scène extraordinaire, c'est un type qui est en train de raconter. Il est dans un match de baseball. Il a été amené par un copain qui essaye de le distraire parce qu'il vient d'être abandonné par sa femme. Et il explique à ce copain, en étant accablé, comment, dans quelles conditions il a été quitté par sa femme. Et il y a une ola, c'est-à-dire, vous savez, cette espèce de courant, de vague qui tourne sur la foule autour du stade, pendant qu'il parle, et tout en continuant à expliquer ses malheurs de cucu, quand la ola arrive, il se lève, et il lève les bras au ciel comme tout le monde, et puis il se rassure en disant, tu te rends compte, elle est partie avec le...
Est-ce que c'est pas une image admirable,
hein,
de l'abrutissement de ces gens qui sont ramassés dans les filets de l'autre? Et le filet, c'est pas le filet du Christ, là, c'est le filet de l'oiseau. L'oiseleur du psaume 91. Mmh. Hein, et lui, il te délivrera, mi pariacouche, du filet de l'oiseleur qui cherche à détruire, hein, qui cherche à piéger l'âme. Moi, quand je vois des téléphones portables, c'est une caricature diabolique des langues de l'Esprit Saint qui tombent du ciel et qui vont toucher tout le monde.
C'est vrai, jusque dans la comment dirais-je, le dessin.
Jusque dans le dessin.
C'est vrai que ça ressemble à une...
Notre ami Nicolas a une explication un peu plus osée que je n'oserais avancer ce soir.
Hein, glisser mortel et appuyer poids.
Voilà, hein.
Effectivement, il y a de ça.
Il y a de ça. Hein. Et puis l'utilisation aussi, il suffit d'aller dans la rue. Pourquoi ils ne se le font pas greffer dans la tronche, hein?
Parce que je pense que c'est un projet
probablement
à court terme pour les sociétés. Hein. Ça, ils vont nous proposer un jour de nous mettre un implant dans l'oreille, non, un implant dans le...
C'est évident. Hein. Ce ramassage, c'est extraordinaire parce qu'il a créé un faux réseau mécanique sur une dialectique du 1 et du 0, puisque toute l'électronique repose sur la voie de la poussière, hein, comme disent les rabbins, c'est-à-dire un grain ou rien. Les images de télé, tout ça, c'est des illusions d'optique, c'est des petits grains séparés par du vide. Et tout ça bouge en donnant une illusion de mouvement. Ce matin, on parlait de l'illusion du mouvement et du contrôle du mouvement. Ça commence, finalement, en Occident, par le calcul différentiel et intégral, qui est une façon d'essayer de capter le mouvement en l'immobilisant et tout en essayant de pas l'immobiliser. C'est impossible.
C'est tout le problème de l'observation scientifique. Voilà. On observe quelque chose qui est modifié par l'observation.
Là, alors, ils ont beau, ils réduisent, on lit d'un calcul différentiel, on réduit de plus en plus l'espace jusqu'à arriver à la tangente, mais à ce moment-là, le mouvement, il n'existe plus, il flue dans l'infini. Hein, donc on saisit les machins. Ensuite, moi je dirais que le cinéma, c'est la même chose. Hein. C'est capter des images d'une manière encore artificielle et sophistiquée. Puis au maximum, c'est la télévision.
Le cinéma, ça s'appuie sur une, on pourrait presque dire sur une faiblesse de la création. C'est une exploitation d'une faiblesse de la création, puisque l'homme ne perçoit pas le changement d'image à partir de 24 images secondes.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce qui permet le mouvement au cinéma.
Exactement. Autrement, deux fois moins vite, il est au ralenti et après ça s'arrête.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le créateur n'est pas allé au bout de sa création, ou est-ce que justement il a borné sa création à ça parce que peut-être que si l'homme avait eu la capacité de saisir n'importe quelle, toutes les images successives, ça aurait rendu sa perception des choses terrifiante ou impossible.
Mais il aurait, à ce moment-là, peut-être qu'il aurait l'intelligence angélique, hein, parce que nous, on a une intelligence qui va par composition, jugement, division et composition, et les anges, ils jugent par intuition. Donc tout ça, c'est une tentative désespérée de l'hyperlogique pour atteindre ce qui n'est pas logique. La télé, c'est ça, ce mouvement, il est faux. C'est un faux mouvement. Mais c'est de la prestidigitation, hein. Ça va à toute vitesse, donc on ne voit pas.
Alors, quelques précisions d'auditeurs. Le film dont je parlais à l'instant, évidemment, c'est quand Harry rencontre Sally. Admirable film.
Oh, Jesus Christ.
Et admirable, charmant.
Les auditeurs aussi qui trouvent tout.
Oui, bah, ils savent tout. Hein. Mais en plus, là, pour une fois, cet auditeur, parce que je peux le dire aux auditeurs que nos téléphonistes qui sont rompus plus à toutes les techniques de l'audition, qui est leur boulot, on finit par repérer certains auditeurs d'habitude. Alors, ils indiquent. Alors, celui-là, en général, il m'engueule parce qu'il me traite de gnostique. Et là, non. Il faut dire en général, il est très drôle. Et là, ça m'étonne pas qu'il soit amusant puisqu'il aime les bons films. Enfin, j'espère qu'il l'aime, celui-là. La Nef des Fous, c'est de Sébastien Brandt et non de Jérôme Bosch.
C'est Bosch.
Est-ce qu'on parle de...
Mais alors, on a même pas
fou, il y a un livre.
Fous,
attendez, il y a un livre.
Non, mais le tableau, c'est bien.
Il y a un livre, il y a un tableau.
Ouais.
Y a,
c'est Bosch, le tableau. Ah, bah, c'est Bosch, hein.
Alors, c'est peut-être le livre qui est de Sébastien Brandt.
Faut pas
voir. Au dictionnaire.
Comment explique-t-on? Non, ça, c'est. Ah oui, vous nous dites qu'Adam et Ève n'avaient pas d'épiderme. Étaient-ils des squelettes? Non, parce que.
Mais non.
Le squelette et l'épiderme, il y a.
Les pères disent qu'ils étaient habillés de lumière. C'était des êtres de lumière comme les anges. Et le squelette, il n'y en avait pas.
Comment explique-t-on que les Chinois, sans toutes nos techniques, ont découvert depuis des millénaires que le monde est partagé entre deux forces, le yin et le yang?
Mais on le sait aussi bien, c'est dans le livre de la sagesse, c'est partout, c'est dans la division du ciel, Dieu crée le ciel et la terre, c'est yin et yang. On sait la même chose qu'en mieux, mais une partie des tribus, là, les descendants de Japheth qui sont partis là-bas, l'ont développé un peu plus que nous, mais nous c'était salé. L'aigle à deux têtes là, dans les armoiries, c'est l'équivalent hein, du yin et du yang. Hein. Il y a toutes sortes de symboliques dans les armoiries, le blanc et le noir, c'est le yin et le yang, le mâle et le femelle, mais ça c'est des choses qui étaient connues par les héros d'art, par les moines, mais pas par premier venu. Hein.
En plus, on dit choses que la tradition a conservées en Asie parce qu'elle est quand même préservée.
Plus elle est plus vers l'Est.
Et chez nous, ça s'est perdu. Parce que c'est évident, quand les moines regardent la téloche, ils ne peuvent plus s'intéresser beaucoup à ces questions-là.
C'est clair, hein, mais la connaissance de ces forces binaires, elle est parfaitement connue. Et dans toutes les patristique, on trouve des textes là-dessus qui sont sans aucun problème quoi, d'analogie. Hein.
Alors maintenant, je vais vous demander une consultation rapide, mon cher docteur Planté. Quand on est atteint de détranchage, ou quand on a dans son entourage quelqu'un qui est atteint de détranchage, est-ce qu'il y a des remèdes?
Je dirais que la première chose, on est tous plus ou moins détronchés, on ne peut pas y échapper. Hein.
Bienvenue au club.
Les autres, hein. Bienvenue au club. Première chose, c'est déjà d'enlever de limiter l'exposition du cerveau à ce qui est fait pour le tuer. Hein. Déjà, toutes les publicités, voilà, encore une chose, les publicités sont d'une bêtise effrayante et sont toutes fondées sur des calembours et des jeux de mots et des approximations pour affoler l'hémisphère droit, hein, pour le rendre encore plus indépendant du gauche, donc faire n'importe quoi. J'ai vu encore une réclame pour un chewing-gum. C'est un portrait.
C'est terrifiant.
C'est terrifiant. Ah,
quelle horreur.
Ça fait gerber, quoi, ouais, hein, ouais. Si on peut dire.
Enfin, femme, la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les épaules et le cou, et puis ils ont découpé le visage, et ils ont reposé le visage avec les yeux en bas et la bouche en haut.
La réponse du docteur me fait penser à une réponse des psychiatres qui dit « tous les hommes sont fous ». Et qui n'en veut point voir à qu'à rentrer chez lui et casser son miroir.
C'est assez joli. Mais dans les publicités à la radio, c'est la même chose. Les publicités avilissent l'idée. Regardez l'image de la Croix-Rouge. Vous avez vu la dernière publicité? On voit un petit bonhomme immonde avec une immense femme superbe à côté. Ils m'ont demandé de l'argent. J'ai dit, je vous donne rien cette année parce que vous faites une publicité avilissante. Même chose pour les publicités de Leclerc et d'Auchan où les maris sont toujours représentés comme des crétins pas possibles. Et tout ça, la bande au champ continental, c'est des bonnes familles catholiques. Plein de bourrés de fric qui, eux, ils vont pas au champ, c'est la vraie vie, quoi. On devrait les obliger à manger pendant 15 jours leurs produits de merde, alors que tous les soirs, ils sont à la tour d'argent, ils sont dans le quartier ici, dans des hôtels particuliers. Ces gens, il faudrait les faire battre là, par des laquais gantés, quoi. Hein, les racler et après les mettre dans une épicerie entre Mont-sur-les-Mines et Paris-le-Monial.
Ils sont partis en Belgique.
Ah, ils sont très bien.
Ça, ils sont bien. Ils sont à l'abri du qui est vrai.
C'était à côté parce que la famille à laquelle vous faites allusion, je dirais pas le nom, mais oui. c'est Roubaix. Alors donc ils n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire. Voilà.
Moi je dirais que les autres choses à faire, c'est d'apprendre à se concentrer. Hein, et l'activité physique doit aller à l'envers de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il faut faire des activités où on est immobile. Moi je dirais depuis l'enluminure jusqu'à des. Et puis les activités, vous savez quels sont mes choix dans la danse, c'est les arts martiaux et puis la danse de salon, hein, qui est un truc très occidental. Moi, je voudrais parler de Georges Erosi,
on va inviter les successeurs de Georges Erosi
qui sont mythiques, qui est une école mythique, mais qui apprennent ces techniques de danse qui sont finalement immémoriales, qui sont d'apprentissage difficile. Mais d'une harmonie extraordinaire. Avec l'autre fois, Valérie m'a montré ce qu'il fallait faire quand on ouvrait le bal en dansant une valse. Hein, c'est-à-dire que les mariés ouvrent le bal et quand ils autorisent les autres à venir danser, ils se retournent tous les deux et tous les deux d'un geste de la main élégant, ils proposent aux invités de venir danser. C'est absolument charmant. Hein. Ouais. C'est d'un niveau de civilisation là-dedans, le geste est d'une grâce exceptionnelle.
C'est autre chose que le rap quand même.
Ah, c'est autre chose que le rap. Hein, et la valse anglaise lente qui doit ravir la reine d'Angleterre à Buckingham, c'est vachement dur, mais c'est extrêmement beau, quoi. Ouais. Donc toutes ces activités-là, y compris
de maîtrise,
absolument, il est limité au maximum électronique, hein, parce que même le moyen en lui-même, il est pas bon à cause des champs électromagnétiques qui se dégagent de là, c'est pas bon, quoi. C'est les téléphones portables, ils dégagent des champs quand même très importants, ils tapent sur des zones du lobe temporal qui sont extraordinairement sensibles à ces radiations.
Je comprends pourquoi j'arrive jamais à vous joindre sur votre téléphone portable ni sur votre courriel.
Sans sûr.
Il a un magnifique ordinateur qui n'ouvre jamais.
Dites-moi, docteur, moi je suis sauvé puisque je refuse d'écrire autrement qu'avec du papier et une plume.
C'est comme ça qu'il faut faire.
Ah, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Prenez note, chef.
Oui, en bas. Voilà. Merci. Oui.
Il y avait une autre petite chose qu'on avait parlé pour. C'est le pain, le vin et.
Ah oui, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce de campagne bizarroïde autour du pain et du vin.
Premièrement, parce que dans l'Apocalypse, il est dit le vin et le pain, c'est ce qui crée le corps du Christ. Hein, donc. Le vin a un contre-type dans l'Apocalypse. Tu as versé dans ta coupe les vins empoisonnés. Hein, c'est la grande Babylone. Hein, bon. Or, il y a une campagne contre les trésors vinicoles de la France invraisemblable, hein, d'une débilité extraordinaire. Et le pain, il est totalement pourri, puisque 80% des protéines du pain ont disparu. Et que moi, j'entendais un grand céréalier dans les environs de Troyes qui me disait « Mon grand-père, qui est boulanger, ne peut plus faire du pain avec les farines qu'on lui donne. »
Ça correspond plus à rien.
Il me dit « C'est une catastrophe. » Il dit « Moi, j'aime ce métier qui est en fait une vocation, mais ce qu'on nous fait faire et les blés qu'on nous donne, c'est une pourriture pas possible. Hein. » Donc, on est touché, hein, dans les éléments les plus sacrés, quoi. Allégresse, on en a parlé 50 fois. Bon, et puis après, il y a quelque chose aussi autour de l'eau. Hein. Il y a toujours un bruit de pollution, de machin, sans arrêt.
On est plus pur,
cette obsession. Et quant au pain, également, dans l'Apocalypse et dans tous les textes des prophètes, et tu n'utiliseras pas pour moi un pain pour un pain ignoble, ça sera un pain de proposition parfait, hein, comme les matzot. Donc, des caractéristiques qui sont violées tout le temps. Et on ne peut lire ça qu'en se mettant sur un plan totalement métaphysique, hein, dans une lutte cosmique. On ne peut plus être au niveau de l'élection du Parlement européen, là. C'est tout autre chose.
Hein. Tiens, une petite pierre de plus dans le jardin de Villeneuve, qui ne s'attendait pas du tout à ça.
Enfin, je parle de manière générale, hein, je ne sais pas ce que tu dis, mais je veux dire, on transcende tout là-dedans. Hein.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce moment précieux que vous nous avez fait passer. J'espère que vous reviendrez vite.
Ça,
il ne faudra pas encore que je vous batte, que je vous menace, que je vous fasse chanter.
Que je vous joigne au téléphone.
Mais les auditeurs demandent beaucoup.
Oui.
Donnez-nous le titre de votre livre. Vous n'avez pas écrit.
Je n'ai pas écrit, je n'écrirai pas et jamais.
Vous avez parlé tout à l'heure de m'écrire.
L'autre fois, je suis passé place Maubert Mutualité, on vendait les livres au poids. Je me suis dit, si j'avais eu la moindre vanité d'écrire quelque chose, je me disais, me faire vendre au poids dans 20 ans, non, c'est trop horrible, quoi.
Et vous avez parlé aussi d'une salle d'entraînement.
Ah ben, alors, laquelle? Aux arts martiaux?
Pouvez-vous donner l'adresse alors, de votre salle?
Si c'est pour les arts martiaux, c'est l'école de maître Oshiro, mais ça, il faudrait, parce que en ce moment, c'est chez aux orphelins d'Auteuil à Clamart, mais éventuellement, peut-être que je pourrais vous donner les coordonnées.
Oui.
Donc là, la saison finie, hein, ça serait pour la saison d'après. Et si c'est pour les danses de salon, c'est Georges et Rosy, rue de Varennes.
Oui.
Hein, qui ont... c'est une école mythique.
Mais oui, c'est appris, un mythe, Georges et Rosy.
Ils ont appris à danser le foxtrot à De Gaulle, quand même. Faut le faire. Enfin, pas eux, hein, mais.
C'est formidable. Voilà.
Ah oui, ça, c'est trop joli. C'est oui, trop, absolument.
Ça devait être assez impressionnant, quoi.
C'est lui qui vous a raconté ça.
C'est peut-être de là que vient son goût pour l'arme blindée, la cavalerie. Vous voyez, l'avance des panzers.
Non, c'est plutôt, quand il a entendu foxtrot, il a entendu trot, il s'est dit, c'est un très bon truc pour se débiner. Je vais même faire des amis encore, tiens. Voilà, ça y est, c'est tout.
C'est pas complètement Fox.
Tiens, voilà une conclusion. Enfin, une émission pleine de vitalité, d'humour, de joie de vivre dans une radio qui ronronne quelquefois.
Oh, d'abord, il ne faut pas attaquer la radio. Non, non, elle ronronne quelquefois.
On peut peut-être monter en numéro de musical, tous les deux.
C'est votre tap dance. Okay.
Écoutez le mercredi, puis voilà.
Voilà, c'est tout.
On vous demande ce que vous pensez des vertus anticancéreuses de l'huile de foie de requin. Le requin, paraît-il, est un des rares animaux à n'avoir jamais le cancer.
Parce qu'il n'a pas de stress, le requin. Ah. Il casse la gueule à tous les poissons dans la mer. Ah, c'est voilà. Tous les poids, hein. Je pense que c'est très utile aussi. Hein, ça, ouais. Ah.
Bien.
Et attendez, un nouveau qui vient d'arriver d'un auditeur. Les calculs différentiels. Est-ce une mauvaise démarche intellectuelle ?
C'est trop fort pour moi. Je dirais probablement non, à condition qu'on connaisse les limites et qu'on l'utilise. Il faut demander à Philippe Boursier de Carbon son avis là-dessus.
Moi, je crois que en réalité, rien n'est mauvais en soi. C'est ce qui est mauvais, c'est l'utilisation.
Il y a la thèse de doctorat de René Guénon. Je pense que dans les couverts d'hiver, ça va bouger. Mais René Guénon a fait une thèse sur le calcul infinitésimal qui est tout à fait passionnante, hein, qui peut répondre à notre auditeur.
Bon, ben voilà, comme ça on est rassuré. Donc lisez René Guénon, mais mettez-vous bien à couvert. Hein,
affirmatif. Hein.
Il va pleuvoir.
Il pleut.
Gnose toujours.
Le temple n'est pas dûment couvert.
Serge, je peux redonner les adresses.
Oui, redonnez les adresses, puis après on donnera la parole au marquis.
Livre de Philippe Prévost, La France et l'origine de la tragédie palestinienne, 1914-1922, édition Centre d'études contemporaines.
Il signera son livre, Monsieur Prévost ?
Oui. Boîte postale 4507, 75325, Paris, Sélec 07.
Mais on le trouve chez Ducas, on le trouve dans la librairie. Et puis, ce livre sera signé donc à la librairie.
À la librairie du Petit Pont.
À Petit Pont.
La librairie du Ducas d'abord.
Vendredi
21 mai.
Vendredi après-midi.
Et puis ensuite à la librairie France Livre, donc
le samedi,
c'est samedi après-midi.
Voilà.
Et on nous demande aussi l'adresse, le téléphone de Gontier Traiteur.
C'est une blague ou quoi ?
Non,
c'est lui qui appelle.
C'est lui qui appelle.
C'est possible. En tous les cas, je vous redonne votre numéro de téléphone. Nous, il y a eu plusieurs. 05 53 24 04 00.
Oui, c'est celui qui a nourri la fête.
Je redonne aussi, on nous a demandé plusieurs fois.
Demande pour pas y aller, probablement, non ?
Si,
c'était très bien.
Ah bon, pour une fois, bon.
Ah, c'était très bien.
Bon, là, j'ai une question.
Vous êtes en train de me faire encore un ami du côté de Saint-Germain.
L'année dernière, enfin...
Bref, oui, c'est mortel depuis pas la troisième édition.
On nous redemande aussi plusieurs fois les coordonnées de l'Alliance Royale. Alors, c'est 17 rue des Acacias, Paris 75017 Paris. Et puis le site, c'est alliance-royale.com. Voilà, c'est tout.
Tu vas l'avoir, ta bombe, Patrick.
Je trouve que 17 et Acacia, c'est limite.
Mais oui, mais c'est fait exprès.
Hein, au point de vue de la symbolique, c'est fait exprès, Mama. Bien, merci, docteur. À tout bientôt.
C'est sûr.
J'espère. Alors, Marquis, vous ne vouliez pas nous parler d'un livre, mais moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez, non ?
Oh, vous me mettez dans l'embarras. Bon, je pensais que vous alliez mettre ma musique, comme ça nous aurait
conduit. Eh ben, ça ne nous empêche pas de...
Eh ben après,
non,
pour finir.
Non, on va la mettre maintenant.
Voilà, ça serait me raccourcir mon temps de méchanceté.
Voilà, laissons la veuve joyeuse à son entrain,
voilà.
Vidoval, oui. Et tournons-nous vers le marquis. Alors, donc, je...
Interviewez-moi.
Je signale d'ailleurs que le marquis peut être lu avec beaucoup de profit dans le libre journal de la France courtoise. J'ai l'honneur d'être le directeur de la rédaction, ma femme, que j'embrasse, tiens, au passage.
Et moi aussi.
Étant la directrice... Oui, bah, vous avez intérêt. La directrice générale... donc l'adresse c'est 4 Place France Litz. Si vous voulez lire le marquis une fois après l'avoir écouté, 4 Place France Litz, 75-010 Paris. L'abonnement est de 110 €, ce qui, eu égard à la qualité du produit, est totalement dérisoire. Monsieur de Villenoisy s'est abonné. Spontanément. Monsieur Prévost ne s'est pas abonné. Ah,
vous ne pas.
Attendez, on va s'expliquer à certains.
Alors, j'en profite pour vous dire que le dernier papier, c'était un papier parce que j'étais en vacances et je ne savais pas que vous y étiez aussi. Donc voilà. Le prochain, il faudra absolument le passer parce que j'ai suivi 100 € pendant que j'étais à Majorque pour le faire. Et après, je vous en ferai un autre sur le mariage en royal. Bon. Et après, je vous en ferai un autre sur le bouquin dont vous voulez que je parle, mais je vais en dire deux mots. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce livre?
Moi, je voudrais. Écoutez, c'est un livre qu'a écrit une dame que nous aimons tous.
Ah oui, beaucoup.
Vous pouvez peut-être. Ça, vous pouvez dire son nom.
Oui, c'est Mademoiselle Renée Saint-Cyr.
Mademoiselle Renée Saint-Cyr. C'était un personnage mythique, personnage de légende, dont vous êtes un des amis...
Depuis 40 ans.
Voilà.
Enfin, je ne compte plus quand on est, mais je crois que ça doit faire ça.
Depuis 40 ans, quand vous l'avez connue toute petite...
Non, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, et vous aussi, 21, elle se
souvient. Oui, à peine.
À peine. Et alors, en plus, j'ai eu la joie de découvrir qu'elle parlait de moi très gentiment dans le livre. Ça me fait très plaisir.
Dépêchez-vous de la récompenser.
Oui, mais alors là, j'ai un vrai problème.
Non, parce que dans ce livre, elle parle d'un...
Je vous dire, oui,
elle parle de quelqu'un.
Quelqu'un.
Bon, alors, il faut quand même dire les choses. Elle parle d'un monsieur qui a partagé sa vie. Elle ne dit pas son nom.
Non. Je vous dire pourquoi.
Tout le monde le sait.
Bien sûr. Mais il y a un problème. Elle a écrit 10 ouvrages et dedans il est question tout le temps de mon ami Jean. Alors mon ami Jean, mon ami Jean, mon ami Jean, très bien. Puis dans le dernier livre, mon ami Jean, des gens s'approchent un peu plus de la réalité. Ça devient Monsieur De. Et
bon, on a déjà deux éléments. Voilà. Il s'appelle Jean, il s'appelle De.
J'ai lu le livre, c'est vrai que...
C'est pas Jean de Gaulle.
Non, c'est une dame qui raconte 60 ans d'une liaison. Alors, quand on voit à peu près tout ce qui se passe, comme village de poubelle chez les Castaldi et ailleurs, etc., là, c'est une histoire assez normale. C'est une dame qui est veuve très jeune et qui a un amant qui a fait très tôt un mariage de convenance. Bon, et pendant 60 ans, ils vont jamais se quitter, tout en se quittant tout le temps, elle rêvant d'être épousée, lui promettant, le faisant jamais, parce que monsieur en question, il aimait pas les femmes, il aimait la femme en général. Il était incapable de fidélité.
Surtout, il voulait épouser qu'une personne née.
C'est ce qu'il avait fait.
Oui.
Et puis, René ne pouvait pas s'en détacher parce que le type avait un charisme formidable. Résultat, ça a un petit peu gâché sa vie parce qu'en définitive, elle aurait pu avoir des occasions, étant ravissante et ce qu'elle était, de se remarier. Et il y a un an et demi, elle avait des petits soucis, elle n'était pas très en forme, et la personne qui s'occupait, elle a dit, tu devrais écrire, ça va te remettre en... Et on a écrit ce bouquin, dans lequel il était question d'histoire d'amour, mais on ne parle pas de la carrière professionnelle, politique, etc., de ce monsieur. Et d'un seul coup, il ne faut pas dire qui c'est, ce que je trouve assez idiot, parce qu'on me dit, oui, mais la famille va faire un procès. Mais la famille ne fera pas de procès, puisque dans le bouquin d'histoire d'amour, on ne dit pas que ce monsieur, dans le livre, on ne parle même pas qu'il a été député, président d'un grand cercle, qu'il était commandant de la Légion d'honneur, etc., je comprends pas. Et puis dans le livre, on donne l'adresse où il habite, etc.
Donc ça simplifie quand même pas mal les choses.
Je vais vous dire, il habitait à Molitor, pas loin d'ici. Il avait une merveilleuse propriété de chasse à Diebolchem. Il a été président du comité olympique français.
Il vous est arrivé d'ailleurs une aventure. On ne dit pas de nom.
Et il ne faut pas le dire.
Ça, on a promis.
Et ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, je suis légèrement en coquetterie avec le factotum de René. Et c'est comme si j'étais en coquetterie avec elle. Parce que je dis, c'est stupide de ne pas dire le nom.
Oui, mais bon, racontez-nous l'histoire de Diebolchem. Enfin, votre rencontre avec lui à Diebolchem.
L'histoire des bouts de savon.
Celle-là.
Non, là, c'est pas... C'est pas des bolchevres, mais c'est arrivé.
Du petit creux.
Ah oui, les
cheveux. Non, quand vous êtes descendu la cuisine.
C'est ce que je dis, le beurre, oui, c'est voilà. Ça.
Non, mais en arrêtant, peut-être...
Si vous voulez, on a remplacé nuitamment des savonnettes par des quarts de beurre.
Voilà.
Voilà.
Et ensuite, ils ont attendu le bruit des visiteurs. Il faut savoir que Diebolchem, c'est une espèce de château, somptueux, dans les Vosges.
En Alsace. Et où vraiment la terre entière du ciel puchique venait chasser.
Et alors ce monsieur de...
C'était un ami, c'est même monsieur Giscard d'Estaing, il s'est dit dans le livre, qui a prononcé l'éloge funèbre. Alors,
si on n'arrive pas à deviner qui est le personnage, on est.
Et alors, ce monsieur qui était un aristocrate de haute lignée, qui était un personnage très important, une nuit se lève, je raconte parce que Jean-Paul visiblement est rétice, et descend pour manger un encas à la cuisine et tombe sur Jean-Paul qui a eu la même idée. Et il lui dit viens avec moi, on va s'amuser. Et ils sont allés. Il a ouvert un placard dans lequel il y avait des petites savonnettes de beurre qui étaient toutes fraîches puisqu'on les avait mises là pour le petit déjeuner du matin. Alors, il a pris toutes les savonnettes de beurre et il a entraîné Jean-Paul dans toutes les salles de bain d'invités qui donnaient sur les couloirs où il a soigneusement remplacé le savon par des petites plaquettes de beurre.
Très précisément,
ça a engagé des bruits divers.
Très précisément sur les bidets. Comme ça, vous...
le résultat, c'est que, ce qui est amusant, c'est la différence, l'inattendu dans le fait qu'un personnage aussi éminent se livre à ce genre de choses. C'est pas la seule chose, car il a fait une autre farce qui était beaucoup plus voyante. Un jour qu'on lui reprochait de se teindre les cheveux.
Oui, il avait les cheveux tout à fait teints, ça lui donnait l'air d'un vieil Iroquois. Et là, quand on lui dit un jour, écoutez, vous êtes à un âge, vous pourriez peut-être laisser faire un peu la nature. Il dit oui, ici c'est noir, mais ailleurs c'est blanc. Et là, il pèse son pantalon, et effectivement.
Alors maintenant, essayez de deviner qui c'est. Vous verrez quand même que c'est assez surprenant.
Je peux en dire une dernière sur lui, après on n'en parle plus. Il avait un bateau sur les côtes corses, et il repérait les très jolies filles qui naviguaient dans la rue, et il leur proposait de monter sur le bateau, bien sûr. Et puis une fois que tout le monde était parti, on buvait du champagne, on s'amusait. Et arrivé au milieu de la mer, toutes celles qui ne savaient pas nager étaient menacées de rentrer à la nage si elles ne.
Si elles ne montraient pas.
De la bonne volonté.
Ça, c'est quand même un procédé.
C'est un procédé.
Et personne n'a jamais dit que c'est un personnage élégant.
Je pense que c'était du domaine du second degré. Je ne pense pas qu'il les aurait jetés à l'eau.
Voilà.
Merci Jean-Paul pour ces aventures. Alors le concours consiste à essayer de.
Non mais je le dirai un jour dans le livre journal. Quitte à me fâcher, je le dirai dans le journal.
Consiste à reconnaître le personnage et vous gagnez un week-end à Beaumont-le-Roger.
Heureusement que l'émission est presque terminée.
Merci mon cher Jean-Paul. Merci mon cher docteur. Monsieur Prévost, merci. M. Prévost nous regarde d'un air chargé de reproches, visiblement.
Bon. La vaisselier est partie.
Ah ben autrement, on n'aurait pas pu. Monsieur de Villenoisy, merci d'être venu nous proposer une alliance royale. Et Victoria, merci aussi d'être toujours présente, fidèle au poste. Et je crois que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Pour une fois, nous allons terminer à l'heure. Franck en est tout ému. Il a le sourire.
On est même en avance. Oh. Dites encore deux, trois mots.
Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine, où nous recevrons Roger Hollindre, je le signale en première partie. Et en deuxième partie, les jeunes Européens viendront faire leur demi-émission habituelle.
Très bien.
Voilà.
Vous saluez les populations?
Je salue les populations, bien sûr. Je leur dis à la semaine prochaine et que Dieu nous garde.
Voilà. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Le Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 mai 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 20, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.